Bon midi, mesdames et messieurs. Bienvenue à l'émission On en jase sur les ondes de Boulevard 102.1. Avec Jeff Fortin, Pascal CV, évidemment Antonine Niaccarini qui va commencer cette émission avec nous. On est très heureux de vous avoir avec nous. Évidemment, on va revenir sur ce budget fédéral. Vous en pensez quoi? 418-971-1021. 78 milliards de déficit. Vous pensez quoi de ça? Êtes-vous satisfait du premier budget Carney ou non? Écrivez-nous 418-971-1021. Également, vous pouvez nous écouter via la web radio sur le blvd.fm. Nos meilleurs moments se retrouvent là aussi. L'application BLVD-1021, meilleure façon de nous suivre partout où vous allez. C'est disponible sur l'App Store et Google Play Store. Et venez voir notre belle face sur Twitch. Twitch.tv/BLVD/FM. Venez nous voir, ça va nous faire extrêmement plaisir. Pascal CV, ça va bien?
Ça va très bien. Écoute, j'ai l'impression de finir l'émission avec Max en tapant dans une boîte et puis il y a du stock qui est sorti de là.
Hein?
Les heures d'ouverture maintenant des commerces, puis ben les gens qui sont tout le temps en train de prendre toutes les plages horaires, que ce soit en esthétique, qui sont partout dans les magasins maintenant à longueur de semaine, tellement qu'il y a eu un débat de société sur les pages Facebook en fin de semaine. Est-ce qu'on devrait empêcher les retraités d'aller dans les magasins de grande surface la fin de semaine parce qu'ils peuvent y aller la semaine? Je te le dis, Jeff, je ne m'attendais pas à ça. Le 418-971-1021, c'est rempli. Fait, écoute, on laisse ça de même,
ben ouais, on
gèle le
tantôt,
tout.
Là.
Mais... il y a assurément le budget là, qui a retenu mes dernières heures. C'est pour tous ceux qui se disaient « Ah, ça sera une continuité de Justin Trudeau, la façon de gérer l'argent du côté des libéraux. » On a vu un petit peu plus de droite économique dans ce budget-là. J'ai hâte d'entendre Antonine.
Yes, j'ai très hâte d'entendre Antonine. C'est du coup, on va l'entendre de suite.
Le caucus. Le caucus. 102-1. Voici Antonine Niaccarini.
On nous avait promis un budget générationnel.
Une nouvelle ère.
Une nouvelle ère. On a mis un beau brise-glace à la première page du budget avec la photo du Cap-Diamant en passant. C'est la ville de Québec.
Absolument.
Qui se retrouve sur le budget fédéral. Oui, puis j'ai un de mes amis qui habite justement le coin.
Ben, écoute, j'ai
envoyé... Et là, il me l'a envoyé fierpette.
Et je l'ai envoyé aussi à mes ex-beaux-parents en disant « Je pense que votre maison est sur la page couverture du budget. » On dit « On gagne-tu quelque chose? On a-tu une baisse d'impôts? »
Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'ils ont gagné? On paye-tu moins de TPS? Qu'est-ce qui se passe? Bon, Antonine Niaccarini, t'en penses quoi de ce budget-là, tiens?
Ben, d'abord... Hier, vraiment, ma première pensée là, à l'écoute de ce discours du budget, c'était la déconnexion entre l'attitude du ministre des Finances et la réalité dans laquelle on se retrouve présentement.
Moi, là, j'avais été fâché au printemps dernier, quand Éric Girard, François Legault avaient pris des belles photos avec le budget, là, qui est épais comme 8 livres.
Tout sourire.
Tout sourire, puis ils venaient nous annoncer un déficit record.
Il était de combien, donc? 11 milliards, de quoi de même?
13,5.
Ouais, exact.
Moi, là, François-Philippe Champagne, hier, là, qui se promène, le gros sourire et que le coquelicot, wouhou! Budget générationnel! Guys! On l'appelle pas le lapin énergiseur pour rien. Là. Il y en a de l'énergie, François-Philippe Champagne. Ah oh, non, mais je vous le dis, c'est le budget qu'on attendait. Ça va transcender les
générations. C'est malade! Yeah!
Tu sais, là, j'étais quasiment avec une beers dans le salon à dire « Hey, yes, on boit pour la prochaine génération. » Puis là, il m'a assommé avec 78 milliards de déficit.
C'est tellement rendu des grands chiffres qu'on sait même plus qu'est-ce que ça veut dire. Là. Des investissements de 300 milliards de dollars, des déficits de 78 milliards de dollars. C'est rendu vraiment des chiffres astronomiques. Effectivement, l'attitude du gouvernement hier, tout sourire, on est de bonne humeur, ça applaudit à toutes les deux phrases.
Ouais, c'est
tout nécessaire.
Des ovations debout. Puis là, en entrevue avec Gérald Filion sur Radio-Canada, après avoir présenté son budget, François-Philippe Champagne nous dit ça.
Seulement regarder le combien, mais le pourquoi. D'abord, dans cette année, vous l'aurez vu dans les premières pages du budget, M. Filion, 75 % de ce qu'on a enregistré comme déficit cette année, c'est pour deux choses. D'abord, pour l'abordabilité, pour aider les familles qui en avaient besoin, la baisse d'impôts, par exemple, ou les mesures qu'on a prises pour les acheteurs d'une première maison. La deuxième chose, c'était la souveraineté. C'était cette réponse-là aux tarifs. Je pense que les gens qui nous regardent comprennent très bien, le monde a changé, hein.
Donc, faut pas regarder le combien. Faut pas regarder 78 milliards de déficit.
On regarde pas ça, Jeff.
Faut pas regarder le 322 milliards de déficit étalé sur 4 ans.
Non.
C'est là pourquoi?
Oui, exactement. Cela dit...
T'en penses quoi de ça? Parce que moi, là, tu sais, quand je regarde, puis là, je me dis, OK, avant que Justin Trudeau arrive au pouvoir, on avait une dette, puis là, j'arrondis d'à peu près 600 milliards. Là, un coup que... Trudeau est parti, puis que ce 4 ans-là va être fait de l'ère Carney, on va être rendu à 1 600 milliards de dettes. Mm-hmm. Fait que c'est 1 milliards de plus.
Avec tout ce que ça implique comme difficulté d'agilité, ça nous enlève de la capacité d'action pour les prochaines années, alors que les défis sont gigantesques. Bon, donc première des choses, c'est de se dire merci Justin Trudeau d'avoir laissé des déficits aussi élevés alors que les crises étaient même pas... Tu sais, je veux dire, la pandémie, c'est une crise importante, je suis d'accord. Mais il y a eu tellement de dépenses frivoles quand tu y penses, des dépenses qui n'ont même pas rapport avec les juridictions fédérales. Mm-hmm. Tu te dis sérieusement, te gérer vraiment comme une cigale alors que tu aurais dû gérer comme une fourmi. Ça, c'est la première des choses qui me vient en
clairement.
Tête. Puis on ne peut pas tout mettre sur le dos de Mark Carney puis de François-Philippe Champagne, quoique François-Philippe Champagne était là. Donc, ouais, on peut y mettre sur le dos.
On peut, c'est ça.
On peut y mettre sur le dos, mais pas sur, nécessairement sur le dos de Mark Carney. Ensuite, c'est vrai de dire qu'on est face à des défis complètement fou en ce moment et que ce budget-là, ben, les attentes étaient d'un côté basses, dans le sens personne ne s'attendait à avoir des cadeaux. Par contre, non. On s'attend à avoir un budget qui soit au service de ce qu'on nous a promis en campagne électorale, c'est-à-dire faire face à la crise commerciale et la crise économique là, dans laquelle, en fait, la tempête économique, puisqu'on n'est pas en crise économique comme telle, à laquelle on fait face présentement. Et là-dessus, je pense qu'on livre la marchandise. C'est un budget qui a le potentiel de transformer l'économie canadienne.
Ouais, avec nos investissements, notamment dans l'armement. Puis ces investissements-là, je suis vraiment pas contre parce que c'est vrai qu'il fallait faire une plus grande part pour l'OTAN. Donc là, tout ça vient
c'est
vraiment
logique.
En ligne de compte. C'est logique.
Puis les conservateurs auraient fait pareil. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? C'est ils peuvent bien chialer contre les investissements. La réalité, c'est qu'ils auraient fait la même chose. Donc, des centaines de milliards de dollars d'investissements en défense, tu le disais, infrastructure. Parce que quand l'économie ralentit, le gouvernement va investir dans nos infrastructures parce que ça stimule l'économie, ça crée de l'emploi. On veut des chantiers.
Ouais.
On en profite, on crée des emplois comme ça pour pallier, en fait, la perte d'emplois dans d'autres secteurs de l'économie. On investit dans la productivité. On a un retard de productivité. Ça, c'est un vrai défi. C'est une bonne cible pour ce budget. Il faut juste voir le comment et si ça va vraiment porter ses fruits puis avoir un impact parce qu'on nous fait souvent des beaux discours, mais finalement, des fois, l'argent qu'on annonce au fédéral, le temps qu'il se rende sur le terrain, là...
Bien, il y a encore pas loin d'un milliard de bloqués pour ce qui est des infrastructures entre le fédéral et le provincial pour les municipalités,
absolument.
Notamment pour s'adapter au changement climatique. Ça, d'ailleurs, l'UMQ a fait une sortie encore une fois là-dessus hier.
Absolument. Puis le fédéral, de son côté, doit arrêter de mettre 12 000 conditions quand il veut transférer
de
l'argent.
C'est ça. T'sais, je regardais dans les postes budgétaires fédérales. Parce que là, soit dit en passant, on est rendu que ce qu'on perçoit en TPS, on sera même plus capable de payer les intérêts sur la dette.
Fait de là, notre déprime matinale.
De là, notre déprime. Les intérêts sur la dette vont être rendus le troisième plus grand poste budgétaire. Là, je le dis en rien, mais vous comprendrez que c'est sarcastique. Et là, quand je regarde les plus grandes dépenses, je fais santé, qui est un des dans le top 3 des postes budgétaires, mais la santé, ça appartient aux provinces.
Absolument. Donc, la responsabilité du fédéral, c'est de transférer de l'argent du déséquilibre fiscal vers les provinces. Puis, tu sais, le fédéral, il regarde ça, il se dit « Ouais, mais ça marche pas bien dans les provinces. » Effectivement, ça marche pas bien. Ça marchera pas mieux s'il y a des fonctionnaires fédéraux qui se mettent à essayer de gérer ça.
Mais non, exactement. Ça marche encore moins bien parce que là, tu dis « OK, je vais te donner de l'argent, mais à condition que tu fasses ça, puis ça, mais ma réalité,
puis
c'est pas ça. »
Puis remplis mes formulaires,
oui,
là,
puis remplis
mes
formulaires. Fait que là, comme ça, toi, tu vas être obligé d'ajouter.
Puis là, faut que tu mettes un petit drapeau canadien aussi sur l'hôpital. Puis c'est vraiment du niaisage et c'est pas efficace.
C'est ça. Fait que là, toi, la fonction publique au Québec, tu vas être obligé d'ajouter 20 000 fonctionnaires pour gérer les transferts, puis moi, je vais en ajouter 100 000.
Exactement. Tu as tout bien encapsulé, la problématique. C'est la même chose qui s'était passée avec l'entente sur le logement. Il y avait de l'argent qu'on attendait depuis des
épouvantable.
Années.
Épouvantable. Ça a duré 3 ans, je pense,
c'était une
cette
saga, là, cette affaire-là. Parce que pourquoi?
En pleine crise du logement, soit tout en passant.
Oui, puis c'est toujours le Québec. Le Québec, on se fait tomber sa noix parce que tu dis arrêter de têter puis accepter l'argent puis accepter les conditions. Mais c'est parce que tu commences à accepter 12 000 conditions, tu fais moins aussi de chemin avec tes dollars. Je ne dis pas que c'est parfait, là, la gestion dans les provinces, mais vraiment, le fédéral n'a pas de leçon à donner sur la gestion des programmes. Okay?
C'est ça, exactement. Hey, Félix nous pose une bonne question, puis justement, j'ai un extrait là-dessus. Il dit « Ouais, mais il faut regarder ça avec le PIB et la gang. » Et voici ce que François-Philippe Champagne avait à dire.
Bien, écoutez, vous avez certainement entendu les paroles de la directrice générale du Fonds monétaire international qui disait elle-même « Il y a deux pays qui peuvent vraiment se le permettre, c'est le Canada et l'Allemagne. » Parce qu'évidemment, on a les ratios les plus bas au niveau de la dette. On a l'un des ratios les plus bas au niveau du déficit. Comme vous avez dit, on a une cote de crédit enviable. Donc, on a une capacité fiscale qui est là.
Je suis allé voir, c'est vrai que le Canada, dans les pays du G7, on va tomber à 42 % de notre PIB avec notre dette. On est les meilleurs du G7. C'est l'Allemagne à 63 % puis là, ça monte comme ça jusqu'au Japon à 214
%. Il faut mettre tout ça en perspective. Oui. Puis il faut rendre à César ce qui revient à César, et c'est vraiment correct. Je continue sur comment ce budget-là a le potentiel de transformer le Canada. Il y a aussi toute la question de la fonction publique fédérale, parce qu'on nous a annoncé hier des coupes dans les emplois dans la fonction publique. On parle de 16 000 seulement cette année, 29 000 à la fin de l'exercice. C'est beaucoup, entre guillemets, puis en même temps, quand on sait qu'on a ajouté 100 000 fonctionnaires sous Justin Trudeau, bien, ça fait pas tant que ça.
Tu y crois-tu vraiment? Parce que si on dit on y va par attrition, on remplacera pas les retraites, mais pour déjà avoir été dans l'appareil public...
C'est tellement dur de couper, là.
Bien, c'est ça. C'est parce que là, un part à la retraite, puis là, il va toujours avoir un gestionnaire pour dire non, mais c'est parce que moi, j'en ai besoin.
C'est nécessaire.
Ça, j'ai pas le choix, c'est nécessaire. T'es toujours un gestionnaire qui voudra pas renipper son département. Là. Donc, quand on me dit 40 000 par attrition, ben moi, je me dis ça va être 20 000. C'est moi qui est Thomas parce que c'est mon expérience que j'ai vécu comme 20 ans de gestionnaire.
Je partage un peu ton scepticisme face à ces planifications-là, mais honnêtement, Monsieur Carney, je ne trouve pas toutes les qualités du monde, mais je le sens assez déterminé et sincère dans cette démarche-là. Il a mis à la tête de la fonction publique fédérale Michael Sabia, qui est quelqu'un qui a travaillé dans le privé aussi.
J'ai vécu la restructuration Bell sous Michael Sabia. Donc, quand il décide de restructurer, il restructure.
C'est ça. Donc, je pense qu'il y a quand même du sérieux de la part du gouvernement dans cette démarche-là, et avec raison. Mm-hmm. Et ce qui est vraiment terrible, c'est que sous les années Trudeau, on a rajouté. On fait des annonces. Là, on annonce, je donne un exemple frivole, mais on va planter 1 milliard d'arbres.
Ouais.
Puis là, t'as des fonctionnaires qu'il faut que je gère ça après.
Mais c'était pas si frivole que ça, là. Il l'avait dit avec Greta Thunberg.
C'est ça. C'est correct, c'est important de planter des arbres. C'est juste que je sais pas pourquoi c'est le gouvernement fédéral qui gère ça. Honnêtement, plus c'est haut et loin dans les tours d'ivoire de la bureaucratie,
c'est
moins
sûr.
C'est efficace. Finalement, je vous annonce qu'il n'y a pas eu 1 milliard d'arbres de plantés non plus. Il y en a eu une couple, cela dit.
Oui, mais
merci
il
n'y
en
beaucoup.
A pas eu 1 milliard.
Mais tu sais, à chaque fois qu'on fait une annonce comme celle-là, on rajoute des fonctionnaires.
Oui.
Ah, ben, ça prend une équipe pour gérer ça, ça prend des agents de ceci, des agents de cela. Et là, tout ça, là, ça finit par faire un serpent qui se mange la queue. C'est vraiment déprimant. Et en même temps, on n'en a pas plus pour notre argent. Parce que dans les ministères fédéraux, tout ce qui donne des services, c'est une catastrophe. L'Agence du revenu, terrible.
18 % de bonnes réponses.
Poste Canada.
Oh,
le système de paye Phoenix.
Je commençais par bien aller.
Les
là.
Trains. Écoute, je pourrais continuer comme ça.
Frédéric Boisvert.
Immigration Canada. Tu sais, il y en a du pain sur la planche dans leur propre juridiction, là, les fédéraux.
C'est ça.
Là.
Fait que là, pourquoi qu'on se concentre pas là-dessus?
Concentrez-vous là-dessus.
Pourquoi on ne se concentre pas?
Voilà.
Le fédéral se concentre sur ses missions du fédéral. Le provincial, ses missions du provincial. Puis le municipal, ses missions du municipal.
Tu sais pourquoi ils ne se concentrent pas là-dessus, Jeff?
Pourquoi?
Parce que les juridictions fédérales, c'est pas sexy en campagne électorale.
T'as raison.
C'est pas sexy.
T'as
un
raison.
Peu comme les juridictions municipales. Puis encore là, peut-être que c'est un peu plus sexy au municipal parce que les gens réalisent à chaque jour que c'est dans leur cours que ça se passe.
C'est plus concret, alors que le fédéral, c'est un
c'est
petit
lointain.
Peu plus loin des gens. Puis, tu sais, il y a eu un sondage cet automne sur les priorités des Québécois dans la presse. Puis c'était quoi les priorités des Québécois? C'était le logement, puis la santé, puis leur portefeuille. Mais donc, ces annonces-là électorales qui finissent par donner des nouveaux fonctionnaires dans la fonction publique fédérale, puis que finalement, après 6 mois, on se rend compte que ça ne répond pas au téléphone, puis qu'il n'y a pas de suivi, puis que c'est ça que ça donne. Donc,
tu
moi, ça.
C'est tellement un bon point.
Cette partie-là de ce qui nous a été annoncé hier, il faut que ça atterrisse correctement. Il faut arrêter aussi de. Tu sais, j'aimais bien la promesse de Pierre Poilievre en campagne. Il disait c'est pas compliqué. Moi, si vous ajoutez un fonctionnaire, on en enlève un ailleurs.
Ouais.
Bon. C'est un petit peu simpliste, mais c'est comme ça qu'on devrait réfléchir parce que finalement, ça finit toujours... C'est tellement facile de grossir, puis plus dur après de couper. On devrait vraiment y penser à deux fois avant d'en rajouter, finalement.
Clairement.
C'est ça un peu le message, la leçon à retenir.
T'as tellement raison. Éric qui écrit, mais voyons, Jeff, serait trop logique, serait trop simple à faire ce que dis, donc on le fera pas. Hey, on parlait justement hier, je disais... Ouais, mais là, les investissements. T'sais, puis là, j'entendais François-Philippe Champagne dire non, mais écoutez, là, c'est. Ah, ben même, j'entendais. Je vais vous faire entendre justement, quand il parle de budget de transparence.
Moi, j'appelle ça de la transparence, M. Fillon, et même la façon canadienne a été célébrée à Washington par le Fonds monétaire qui disait « ce que fait le Canada, c'est comme ça qu'on devrait faire ». Même chose pour l'Angleterre, avec nos collègues anglais, on a vu Singapour le fait. Moi, je pense que c'est de la transparence. Les gens comprennent. Quand vous allez à l'épicerie, vous dépensez. Quand vous achetez une maison, vous investissez. Alors...
OK. Quand vous allez à l'épicerie, vous dépensez. Quand vous allez à la maison, vous investissez. Oui, ça peut. C'est vrai, c'est une dépense d'investissement, une maison.
Tu peux la revendre.
Tu peux la revendre. Mais je dis ce que j'ai dit régulièrement. T'sais, elle fait partie de mon budget, ma maison. Elle peut pas être hors budget. Et je me suis rappelé de mes années dans le communautaire où j'avais à gérer le budget d'organisme communautaire. On en fait des investissements. Hey, OK, ça prend une nouvelle toiture. Bon, ben, investir dans une nouvelle toiture, on l'amortit sur 25 ans. OK, il faudrait agrandir le patro. Bon, ben, parfait. 4 millions pour agrandir le patro. On ramène ça sur 25 ans. Mais après ça, là, quand je fais mon budget, là, puis que ma firme comptable passe sur mon budget, là, ils me disent pas, hey, c'est-tu quoi? Ton 4 millions, là, t'as pas à le calculer dans ton budget. Non, mon amortissement sur 25 ans est dans mon budget et je dois arriver kiff-kiff à la fin. Mes amortissements inclus, donc mes amortissements font partie de mes dépenses.
T'as raison. En même temps, c'est vrai que toute dépense n'est pas égale. C'est-à-dire qu'il y a des meilleures dépenses que d'autres.
Ben oui.
Payer ton épicerie avec ta carte de crédit, ben oui, c'est pas une bonne idée. Payer ta maison puis avec une hypothèque, c'est une bonne idée.
En effet.
Ton prêt étudiant a quasiment pas de taux d'intérêt. C'est un investissement, finalement.
Oh, oui.
C'est correct. C'est juste qu'on le sait bien que c'est politique. Puis qu'on essaie de faire mieux passer la pilule. Tantôt, on se disait, là, ils en ont mis épais. Là, c'est générationnel, tout ça. Tout ça, c'était pour justifier la grosseur du déficit, finalement.
Ouais.
Là. Puis, moi, en tout cas, j'ai hâte de voir, là, mais les agences de notation, là, t'as beau changer tes méthodes comptables, d'après moi, ils changeront pas les leurs. Là.
Ben non, c'est ça. Et on se l'était fait dire, au lendemain de l'élection, faites attention à vos prochains déficits, parce que ça se peut qu'on vous décote.
Puis là, on est allé avec un déficit record. Peut-être que les gens à la maison se disent, on s'en fout, dans le fond, qu'ils nous décotent. Non, on s'en fout pas. Ouais. Hein. Honnêtement, ce que ça fait, ça a des impacts financiers pour la suite, ouais, quand on se fait décoter.
Et François Blanchette, hier, qui mentionnait également qu'il y a des crédits d'impôt aux entreprises qui se retrouvent dans les dépenses, mais d'investissement. Là, c'est pas une dépense d'investissement quand on donne un crédit d'impôt à une entreprise. Je comprends que cette entreprise-là, avec ce crédit d'impôt-là, va peut-être justement investir dans ces infrastructures, donc s'agrandir, s'acheter des nouveaux robots pour être plus productif. Mais là, maintenant, on étire l'élastique en tabarouette.
C'est ça, c'est où que tu tires la ligne entre ce qui est une dépense et un investissement. Moi, si tu n'es pas capable de revendre ton affaire après, là,
ouais, ben, c'est pas un investissement.
Pas un investissement.
En effet.
Compliqué.
Donc, il y a beaucoup de ça qui se retrouvent dans le budget d'investissement. Alors là, on nous dit, ouais, c'est 78 milliards de déficit, mais 80% de ça sont des investissements. Ouf.
La transparence, c'est de dire aux gens, on est pris avec ça, là. Puis entre faire juste de l'austérité,
mm-hmm,
pour absolument faire un petit chiffre de déficit pour vous faire plaisir et investir de façon massive. En fait, là, le bon message, à mon avis, ça aurait été de dire, c'est pas un budget extraordinaire dont les gens vont se rappeler pour toujours.
Oh, bravo.
Le bon message, c'est voici un budget de crise. C'est,
oui,
un budget de guerre.
Pourquoi on va pas là? Est-ce qu'on pense qu'on va être, en fait, pointé du doigt pour cette guerre-là, slash
économique?
Les gens n'ont
pas envie d'entendre ça, je pense.
En même temps, les gens ont envie d'entendre une transparence, ils nous l'écrivent à chaque jour. C'est corsé.
Je me demande toujours si les gens veulent se faire dire la vérité.
Tant
même
que ça,
dans vos vies personnelles, les gens là, qui vous demandent conseil, ils veulent-tu vraiment avoir la vérité?
Moi,
ou ils veulent se faire flatter,
oui,
dans le sens du poil?
J'essaierais. Si j'étais en politique, au moins j'essaierais. Puis on, ouais, voit que tous les paliers, tous les partis ne prennent pas cette lignée-là. Ça veut dire que c'est sûrement pas la bonne.
Moi, personnellement, puis je ne suis pas toujours l'électrice lambda pour toutes sortes de raisons, mais moi, j'aurais préféré qu'on me dise que c'est un budget de guerre, pas un budget extraordinaire, puis on sort le champagne.
Parce que ça aurait amené un genre de rigueur. On aurait eu l'impression d'avoir un gouvernement qui prend le vent de front,
oui,
de,
oui,
face, comme il
avec
devrait
sérieux,
le faire, avec sérieux.
Puis avec une certaine
crédibilité,
gravité.
Oui.
Dernier élément que je voulais souligner avec ce sujet-là, c'est qu'on parlait aussi des seuils d'immigration, parce que ça aussi, c'est un virage majeur là, du gouvernement Carney par rapport à l'époque de Justin Trudeau. Ça avait commencé un peu à la fin de Justin Trudeau, on était un petit peu moins optimiste là, sur notre capacité d'accueillir autant d'immigrants dans les prochaines années. On coupe dans l'immigration et principalement dans l'immigration temporaire. On sait, on a une crise du logement. Les provinces ont une crise des services publics. Donc, moins 43 % d'immigrants temporaires pour les prochaines années.
J'en profite pour saluer Nadine, une auditrice fidèle qui dit « J'attends la conférence du ministre Roberge demain pour savoir si je pourrais déposer ma demande de résidente permanente.
Ben, »
Alors,
oui.
Nadine, on te le souhaite. On veut te garder avec nous. T'es une personne issue d'une communauté immigrante en France qui travaille à Québec.
Ben,
c'est une immigrante économique.
Mais c'est ça. Puis c'est de l'immigration économique francophone. C'est ça qui est complètement fou en immigration en passant. Là. On change d'idée aux années. On change de politique. Les gens n'ont pas de prévisibilité. Je ne sais pas c'est quoi la situation personnelle de Nadine, mais je sais que ça crée énormément d'anxiété chez toutes sortes de personnes qui avaient des plans d'immigrer ici et que finalement, les règles du jeu changent à tout bout de champ. Ouais. En tout cas, bref.
Je te fais entendre ce monsieur.
On a besoin de faire une décision si on va offrir du leadership et travailler avec nos communautés ou le démolir, essayer d'opposer tout ce qui se passe aux chambres des communes. On a toujours quelque chose de bon avec le budget, avec des projets de loi qui sont importants pour nos communautés.
Chris D'Entremont, qui était député conservateur, a enlevé son gilet bleu, il a mis le rouge, il a traversé la Chambre des communes, puis il a dit à Pierre Poilievre, « Toi, là, tu dis trop des affaires pour empêcher le Canada de progresser. M'en va avec Marc. »
Ben oui, toi. C'est drôle, parce que c'était Pierre Poilievre qui était chef, puis il n'a pas vraiment changé depuis la dernière campagne.
Ben non, c'est ça. C'est drôle parce que sur Canada 338, ce matin, on est allé regarder puis sa circonscription en Acadie, comme par magie, là, 75 % de chances de gagner pour les libéraux.
C'est sûr que ça n'a pas de lien avec
mais
ça.
Mais ça n'a pas de lien, il n'a pas fait ça.
Non, c'est une question de valeur.
C'est comme Mme Poulet, 99 % la porte pour les libéraux. C'est pas ça qui l'avait amené à parler aux libéraux.
Non, pas du tout, pas du tout. C'est pas ça du tout.
T'en penses quoi? Même, tu sais, Carney essaie de devenir majoritaire. Donc là,
oui, lui, ça réglerait son problème.
Il y en a un sur trois de fait. Et il y a plusieurs analystes que j'entendais hier dire ça, puis je trouvais pas fou, puis je veux t'entendre. S'il est majoritaire, Carney va pouvoir aller plus loin dans son austérité, sa rigueur budgétaire.
Oui.
Parce que là, hier, il a laissé des petites nananes pour les NPD, là, les soins dentaires, les coupes dans la fonction publique quand même relativement, je vais le dire comme ça, adéquate avec de l'attrition et non pas des coupes drastiques.
Mais attention, parce que s'il va si loin que ça, parce qu'il y a aussi à l'intérieur de son propre caucus des gens qui se posent des questions sur... Coudonc, moi, j'étais dans un parti de centre-gauche, puis là, tout à coup, on fait de l'austérité, on se fout de l'environnement. Il y a déjà eu quelques députés qui ont lancé des avertissements sur les questions d'environnement, notamment. Donc, c'est bien belle fun si tu vas gagner 2-3 députés conservateurs, mais si tu perds ton propre caucus... c'est pas mieux.
Ouais.
C'est vrai que d'avoir la majorité, ça réglerait son problème, surtout que les partis travaillent très, très mal à Ottawa en contexte de gouvernement minoritaire. On n'a pas vu beaucoup de collaboration dans les dernières années. Un Parlement qui a été pratiquement paralysé l'année dernière, qui n'est pas très productif. Donc, c'est sûr que ça serait mieux si on collaborait puis si on était capable des fois de faire des compromis puis de laisser la politique de côté, mais on va être réaliste. Donc, d'aller chercher 3 députés en tout, ça serait vraiment pratique pour Mark Carney. Bon. Maintenant, cela étant dit, quand même pense à la personne, Chris D'Entremont, qui est allé se faire élire sous une bannière. Il a mis sa face sur des poteaux avec la bannière conservatrice et 6 mois plus tard, sans aucune motadine de bonne raison.
Je te dirais même 6 ans plus tard parce qu'il est député conservateur depuis
ben
6 ans.
Ben oui. Non, mais oui. Puis, mais tu sais, des fois, par exemple, Jeff, moi... J'ai une certaine ouverture d'esprit face à quelqu'un qui change de parti.
Oui,
tu sais, René Lévesque, là, il était libéral, il est devenu PQ.
Lucien
Bouchard, il a changé. Tu sais, ça peut arriver une fois dans ta carrière parce que la dynamique politique, elle change. Les partis changent. Des fois, toi, tu n'as pas changé dans tes valeurs, mais le parti dans lequel tu es a dramatiquement changé et tu ne t'y reconnais plus.
En effet.
Fort bien, c'est correct. Maintenant, en 6 mois, tu sais, s'il y avait eu un changement de chef, mettons, OK, tu es conservateur, puis il y en a eu un changement de chef. Monsieur D'Entremont était là avant que Pierre Poilievre arrive. Peut-être que Pierre Poilievre, c'est pas sa tasse de thé, mais tu t'es présenté le printemps passé.
Oui, puis en même temps, je veux dire, c'est drôle, tu sais, quand Pierre Poilievre et les conservateurs étaient à 50 % dans les intentions de vote, ça, ils tentaient pas de changer.
Tu fais plus de compromis, on dirait, dans ce temps-là.
C'est ça.
Donc, bon, bref, on verra bien. Maintenant, moi, je pense que la prochaine source de députés qui pourraient traverser, c'est peut-être plus du côté du NPD. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Il n'y a pas un gros bassin. Mais il y a une course à la chefferie au NPD. Et mettons que c'est un spécial là, qui gagne là, puis qui est un petit peu extrémiste, c'est barre. Il y a quelqu'un qui pourrait faire comme, bon, moi, ça ne me convient plus, je joins les libéraux. Il y aurait une raison de valeur à le faire.
En effet.
Le NPD est toujours à risque là, de s'en aller un petit peu plus vers l'extrême gauche.
Des courses à la chefferie, ça divise toujours un parti.
Exact.
Donc, il pourra avoir des chances là-dessus. Est-ce qu'on est en austérité caquiste si on a annoncé qu'on commençait justement le plan de coupure au niveau de la fonction publique?
Hey, je te renvoie une question comme réponse.
Ah ouais,
est-ce que le mot austérité est aussi mal vu qu'il l'a déjà été? Avant, là, c'était comme faux. C'est pas de l'austérité.
Ben, je pense que pour les syndicats, oui.
Ouais, mais à part ça,
dans la population, pas du tout. Avec les déficits monstres qu'on vient de vivre, on en veut de l'austérité, selon moi. Puis si je lis justement tout ce que les jeunes nous écrivent, vous réagissez beaucoup justement 418-971-101 par rapport au budget fédéral.
Pascal, t'en penses quoi?
Je pense que parce qu'on y a goûté, puis que ça a passé d'une façon aigre, certes, là, c'était pas bon.
Mais
on est habitué, puis
hein?
On sait que c'est ça qui nous amène à s'en sortir de cette crise-là économique en partie. Je pense qu'on est capable d'en remanger maintenant.
C'est intéressant. Moi, je pense que le mot est moins toxique qu'il l'a été, que les gens sont conscients des défis auxquels on fait face, que, mettons que tu demandes à n'importe qui, tu fais un box-pop dans la rue, est-ce qu'il y a trop de fonctionnaires? Les gens disent oui. Mais des fonctionnaires, quand c'est théorique... Tout le monde trouve pas ça fait rien.
Ouais.
Mais après ça, les histoires se mettent à sortir. Là, hey, tu t'es fait couper ça. OK. Oh, il y a un impact ici. On n'avait pas pensé à ça. Mais
tel organisme.
Tel organisme qui n'a plus de réponse puis qui n'a plus de. Oh, OK. Ah, oh, ça, c'est des fonctionnaires, ça, des agents de la faune qui ne surveillent plus puis qu'on a vu une montée du braconnage. Oh, tatata. Quand ça devient un petit peu plus concret,
t'as raison.
L'appui descend. Puis, tu sais, là, on oublie, mais à l'époque de Philippe Couillard, on dirait que ça fait 200 ans, mais ça fait pas si longtemps que ça. Moi, j'étais dans l'opposition. Je travaillais à l'opposition à l'époque. À tous les matins, on avait une histoire avec quelqu'un qui avait un impact négatif grave
d'austérité.
Des coupures. OK? Puis, tu sais, on était pas fin, là. T'sais, on venait le matin là, avec des personnes handicapées qui pouvaient plus changer de chaise roulante parce que leur programme avait été coupé.
Vous le mettez
avec
dans leur face, là.
C'est des vrais gens qui avaient des vrais impacts. On arrivait avec les centres jeunesse-emploi qui s'étaient fait couper puis avec des jeunes qui avaient perdu leur service. À tous les jours, on avait des exemples. Au niveau fédéral, moi... Honnêtement, ça marche déjà pas. Ça,
c'est
plus
loin
flou, c'est loin. Bon, c'est correct. Mais au Québec, là, ça va brasser. Puis généralement, les fonctionnaires, c'est pas des gens qui sortent beaucoup dans les médias. Fait que, t'sais, évidemment, eux vont pas. T'sais, ils vont avoir de la résistance passive, mais ils vont pas trop sortir. Par contre, les syndicats vont être vocaux. En ce moment, les syndicats, est-ce qu'ils ont autant d'écho qu'ils ont déjà eu? Peut-être pas.
C'est non.
Mais si les oppositions à l'Assemblée nationale font une bonne job de trouver du monde qui sont touchés par ces coupures-là, trouver des non-sens. Étant donné que la CAQ est tellement déjà en difficulté, moi, je pense que ça va brasser dans les prochains mois. Donc, la ministre, en fait, la présidente du Conseil du Trésor, Françoise-Hélène Duranceau, qui a déposé un projet de loi ce matin, il y a des fusions, de la mutualisation. Donc, c'est des organismes qui vont devoir regrouper certains services pour être plus efficaces. On demande aux sous-ministres et aux PDG là, des différentes entités gouvernementales de trouver des moyens d'être plus efficients, de couper des postes, etc., etc. Donc, ça faisait partie des priorités que le premier ministre avait évoquées dans son discours d'ouverture. Puis on va de l'avant avec ça. On est sur beaucoup de fronts en même temps. Hein.
Oui, exactement. Puis on tente de gagner du capital politique, mais on ne réussit pas là, à l'heure actuelle parce que ça crée énormément de friction même à l'intérieur de l'équipe.
On essaie en urgence de faire bouger l'aiguille des sondages, c'est clair. Mais en même temps, on sent que le gouvernement sont un peu en mode bucket list. Parce que faut savoir que François Legault, casser les syndicats, briser certains carcans gouvernementaux, aller plus rapidement, puis les médecins, là, ça fait partie des obsessions qu'il y a depuis les années 90. C'est vraiment dans ces dadas. Donc, oui, il y a une partie d'on essaie de gagner des points, mais il y a aussi une partie de on se fait plaisir présentement.
Oui, c'est ça. Il y a aussi une partie. Il me reste un an à faire. Fait que comme ça, gars, je vais faire des barres sur ma bucket list. Hey, en 30 secondes, on en reparlera demain parce que Luc Laliberté nous attend pour parler du phénomène Zoran Mandani qui a été élu maire de New York. Les autruches En BC, qu'est-ce qui se passe, là?
Hey, je t'avais parlé de la ferme d'autruches, là, ouais. Des pauvres petites autruches qui avaient pogné à grippe aviaire, puis là, finalement, là, les propriétaires veulent pas qu'on tue les autruches, puis là, même RFK aux États-Unis s'en était mêlé, puis disent qu'il fallait pas tuer les autruches, puis tout ça. C'est vraiment bizarre, mais hier, ben, il y a des manifestations devant la ferme d'autruches régulièrement, il y a quelqu'un qui est décédé.
Ben, c'est ça que tu m'as envoyé comme article. J'ai dit,
mais c'est une mort non suspecte. Fait que là, il n'y a pas eu, je sais pas, ça n'a pas de lien finalement avec les autruches.
Faites une crise cardiaque en essayant de protéger les autruches?
Ben oui, c'est Colin, il devait vraiment être...
Prendre ça à cœur.
Ça, il prenait ça à cœur, sans mauvais jeu de mots. Mais tout ça pour dire que c'est demain que la cour va trancher sur le sort de ces pauvres autruches de la Colombie-Britannique.
On se dirige vers quoi? On le sait-tu ou c'est vraiment nébuleux?
C'est très nébuleux. Dans le fond, c'est un appel. Hein. Fait que la première décision de la cour, c'était de dire que c'est le principe de précaution. Donc, si c'est un cheptel a été touché par la maladie, bye-bye les autruches. Mais on est en appel. Donc, on va voir si finalement, on va sauver les autruches puis les évaluer une après l'autre pour savoir si elles vont survivre.
Tiens-nous au courant. Je suis super content de voir qu'RFK veut que les autruches survivent, mais qu'il est contre les vaccins.
Ben oui.
Ça fait plein de sens.
C'est logique.
Oui, c'est très logique. C'est l'administration Trump à son meilleur. D'ailleurs, on va parler de ça au retour de la pause avec Luc Laliberté parce que l'administration Trump a mangé une rince hier à New York, en Virginie, au New Jersey et en Californie. Donc, Luc Laliberté nous analyse ça avec tout son professionnalisme et son expérience. Immédiatement après la pause à l'émission, on en jase sur les ondes de Boulevard 102.1. OK, oui, on jase et on jase de sujets très importants avec vous et continuez à agir au 418, à interagir au 418-971-1021. Vous avez été énormément le faire durant le budget Carney. Je vous dirais là, un petit pourcentage comme ça là, que je retiens. 70% des gens trouvent à écrire, mais la dette, c'est vraiment trop élevé. Le déficit est trop élevé. Ça me fait peur. Mais 30% des gens qui disent, hey, crime, il y a une baisse de... Il n'y a pas de TPS pour le premier achat d'une maison. Versus le PIB, on n'est pas encore dans le trouble.
Il y a certaines taxes de luxe qui tombent aussi. Exactement. Fait qu'il y avait une classe sociale plus aisée qui s'achetait des biens et qui disait, ah, on était écœuré d'avoir les taxes de luxe. Par contre, elle n'a pas tombé sur les voitures.
Non.
Elle est encore bien en place. Mais c'est vrai qu'on a essayé de plaire un petit peu à tout le monde au niveau de l'austérité du portefeuille personnel.
En plein ça. Il y avait une très grosse soirée hier aux États-Unis, Pascal, parce qu'il y avait plusieurs élections, dont celle à New York pour un nouveau maire. Et on va tout de suite aller en parler avec Luc Laliberté, chroniqueur en politique américaine et ex-enseignant au cégep Garneau. Luc, comment vas-tu?
Particulièrement bien. J'espère que c'est la même chose de votre côté pour toute l'équipe.
Oui. Luc, on va écouter dans quelques instants une minute du discours de Zoran Mamdani, justement, qui a remporté la mairie de New York avec un peu plus de 50% des voix. Mais avant ça, Luc, il faut que je te le dise, c'est une véritable rock star qui vient d'arriver à la mairie de New York à 34 ans comme ça.
Écoute, ça a rappelé, avec les forces puis les limites, mais ça a rappelé un peu le phénomène Barack Obama. C'est quelqu'un qui a l'air sorti du champ gauche, puis c'est le cas de le dire, du champ gauche dans ce cas-ci. Donc, c'est quelqu'un qu'on n'a pas vu venir vraiment, mais qui, dans les derniers mois, a connu une ascension qui est fulgurante. Hier, et on va écouter le discours, là, mais hier, il a parlé d'espoir, il était au-devant des gens. C'est un talent naturel pour la communication, mais aussi pour établir des contacts avec les gens. Donc, oui, une rockstar. En même temps, une rockstar, ça a des limites. Il y a l'image, il y a les mots. Est-ce qu'on peut livrer la marchandise? On pourra reparler de ça éventuellement.
Exactement. On écoute cette minute de discours de Zoran Mamdani. Dans les 12 derniers mois, on a renversé le pouvoir. Le pouvoir est maintenant dans nos mains. On est en train d'écrire une nouvelle dynastie. Il est allé loin, c'est... Monsieur Mamdani, hier.
Ils sont forts, les mots. Là. Ils sont très Donald Trump, sa crowd, et on essaie de créer sentiment d'appartenance. Là.
Écoute, il y a beaucoup de choses dans ce court extrait-là, mais finalement, on offre comme répartie à Donald Trump, qui est un populiste de droite. Puis je le dis, ça peut être positif. Le populisme, des fois, on craint ça ou on prend ça de haut. Là. Si on est près des gens, puis que les gens, on écoute les gens, puis qu'ils se retrouvent dans notre message, bien, en démocratie, il me semble que c'est positif. Ça en prend un brin de populisme ou beaucoup parfois. Donc, il offre en répartie ou en contrepartie au populisme de droite de Donald Trump un populisme de gauche. Et il est pleinement assumé. Non seulement il le dit, si on est contre les institutions, si on est contre les politiciens de carrière comme Andrew Cuomo, qui était son adversaire, effectivement, il dit « on passe un message aux riches, aux puissants, à ceux qui sont au sommet ». Grosso modo, nous, les travailleurs, la classe moyenne, ce que lui, en passant, n'est pas. Mais il dit, nous, on s'en vient, c'est notre tour. Et pour assumer pleinement son étiquette de gauche, ben, il a commencé par une citation de Eugene Debs. Pour ceux qui ne font pas d'histoire américaine ou de politique américaine à tous les jours, ils se disent « Pourquoi il a commencé avec ce gars-là? » C'est quelqu'un qui était aux États-Unis un socialiste. Donc, un socialiste, on voit ça différemment un peu de notre côté de la frontière. On est plus près de la vraie définition d'un socialiste. Mais aux États-Unis, c'est entre ça et le diable, l'étiquette se compare pas mal. Donc, il se colle à Eugene Debs, qui a été un candidat démocrate socialiste. Et ensuite, il passe un message aux travailleurs contre les élites. Alors, c'est comme ça qu'il débute hier. C'était très fort. Le ton, d'ailleurs, hein, ceux qui l'ont suivi pendant la campagne, c'est quelqu'un qui était rassembleur, c'est quelqu'un qui semblait en contrôle, quelqu'un qui a un message qui était... Hier, j'ai envie de te dire, c'était à mi-chemin entre l'arrogance, hein, la confiance, le défi. C'est la première fois que je l'entendais s'exprimer sur une longue période avec ce ton-là. Mais bien sûr, je pense que c'est Pascal que j'entendais dire, il a parlé à sa crowd, hein, ou il a parlé à ses partisans. Hier, c'était la récompense. Vous avez accepté le défi, vous avez relevé le défi, nous entrons maintenant, hein, à l'hôtel de ville et on va changer des choses.
Par contre, moi, il y a une petite note que je me suis prise en écoutant ce discours-là hier, et c'est « Qu'adviendra-t-il de l'homme en question et de sa politique? » Parce qu'effectivement, il ne fait pas partie de la strate qu'il défend et qu'il met de l'avant. Ça se peut que ce soit bien fait, mais essentiellement, il n'y a pas les bottines sur la terre avec ces gens-là qui en arrachent peut-être un petit peu plus financièrement et qui travaillent 40 heures semaine avec un salaire minimum. Ça ne fait pas de lui une personne disqualifiée pour les défendre. Au contraire, il va peut-être avoir accès un petit peu plus aux gens qui sont dans la hiérarchie sociale élevée en termes de finances. Puis, il va pouvoir leur parler puis être un petit peu leur pote d'endor, leur porte-voix. Mais, c'est la même chose pour Donald Trump. Faut pas qu'il vienne qu'à s'en servir de cette crowd-là qui va lui faire confiance.
Oui, puis qu'il les déçoive. Il a fait une partie du travail, c'était de mener la campagne qu'il a menée et de l'emporter. Donc, c'était déjà en soi, considérant son jeune âge, c'est 34 ans, Mme Dany, je pense. Mm-hmm. C'est pas beaucoup d'expérience non plus sur la scène politique. Donc, il réussit déjà un premier exploit. Et souvent, on disait, quand on se battait dans la cour d'école, souvent le plus difficile, c'est pas de grimper sur la montagne l'hiver, c'est d'y rester, hein, quand on...
Le fameux roi de la montagne.
C'est le fameux roi de la montagne. Ce matin, il est le roi de la montagne. Il est là pour un bout de temps encore. Et moi, j'ai eu une pensée, mais ça va avec les élites, puis ça va aussi avec les gens à qui il a promis beaucoup de choses. C'est, j'ai pensé à la gouverneure démocrate de l'État, Mme Hochul. Mme Hochul, un des premiers appels qu'elle va recevoir dans ses prochaines journées de travail, ça va être celui de Mme Dany, qui est le maire de New York. Quand on promet autant le gel des logements, la création de logements sociaux, le transport en commun gratuit, service de garderie, un peu ce qu'on a, nous, ici au Québec, mais on sait qu'il y a un coût et un prix qui vient avec ça, le maire de New York ne contrôle pas tous les leviers. Il a besoin d'aide des différents paliers, entre autres pour du financement. Ces fameuses taxes pour les corporations et les plus riches, ça ne suffira pas. Donc, il a besoin de, entre autres, la gouverneure qui est du même parti que lui. Et j'aurais été curieux, moi, d'être dans le salon de Mme Hochul hier devant son téléviseur quand elle a vu se confirmer ce qu'on annonçait depuis quelques jours, c'est-à-dire la victoire d'un type du même parti, mais beaucoup plus progressiste. Donc, la pente, elle est très raide pour Mme Dany. Donc, on promet beaucoup, le message est positif. Beaucoup de gens se sont reconnus dans son parcours. Je disais, c'est pas quelqu'un qui est issu des classes très modestes, là, il s'est pas arraché à la pauvreté, mais c'est un immigrant. Il est de confession musulmane. Il y a beaucoup d'immigrants aux États-Unis, entre autres à New York, qui est une ville d'immigrants construites souvent par des immigrants. Donc, quand on va chercher autant de passion, et c'est là où je disais, il y a une comparaison avec Obama, mais un peu avec Trump aussi, quand on va chercher autant d'enthousiasme, autant d'espoir, autant de partisans, livrer la marchandise après, c'est drôlement important. Et je le répète, il va fort probablement manquer d'argent et peut-être d'amis au plan politique, même au sein de son propre parti.
Oui, parce que Luc, hier, justement, grosse journée, pour grande soirée pour les démocrates. Mme Dany à New York, mais surtout Abigail Spanberger qui prend la gouverne de la Virginie comme gouverneur, et Mickey Sherrill qui est élu gouverneur du New Jersey. Ouais. On a également modifié la carte électorale en Californie, comme on a fait au Texas, mais cette fois-là, à l'avantage des démocrates. Mais ça... Spanberger, Sherrill, c'est des démocrates modérés. Donc,
ouais, écoute, Oui, pardon, vas-y.
Ben donc, il y a une grande victoire à New York d'un progressiste, mais en même temps, il y a deux belles victoires de démocrates modérés dans des États clés. Le Parti démocrate, il se retrouve déchiré ce matin, là.
Ah, j'ai envie de te dire écartelé.
Oui,
parce que même en Californie, où on dit ce sont des démocrates, là, Gavin Newsom, qui est le gouverneur, c'est celui qui a porté la proposition 50. Le fameux redécoupage de la carte électorale auquel tu faisais référence. Hier, c'était une victoire écrasante. Gavin Newsom, il s'est repositionné politiquement. Il est beaucoup plus au centre qu'il ne l'était quand il était maire de San Francisco.
Dans le but de devenir président, Luc?
Ben voilà, moi, je suis convaincu qu'il est sur les rangs en 2028. Et là, tu es un dirigeant du Parti républicain, du Parti démocrate, pardon. Tu es Hakeem Jeffries, qui est le meneur des démocrates à la Chambre. Tu es Chuck Schumer, le meneur des démocrates au Sénat. Et tu te dis, là, dans un an, on a des élections de mi-mandat, puis on les calcule vite. Dans 3 ans, on n'a pas encore de chef de file. On va aller au bâton avec qui pour affronter le républicain qui devrait être quelqu'un d'autre que Donald Trump. Et la grande question, c'est, d'ici un an ou d'ici 3 ans, est-ce qu'on s'en va vraiment à gauche à la Mamdani ou si on s'en va plus vers le centre? Aux États-Unis, et peut-être qu'il y a une vague de fond qui m'échappe, parce que Mamdani, c'est très spectaculaire ce qui s'est passé, mais je ne vois pas un candidat aussi progressiste aller chercher ce qu'on appelle les swing states ou les états pivots. Mm-hmm. Je pense que quelqu'un comme Mamdani, à New York, dans le contexte new-yorkais, avec les adversaires qu'il avait, c'est possible. Je suis loin d'être convaincu que sur la scène nationale, c'est jouable.
Je pense pas qu'au Michigan, en Pennsylvanie, ça fonctionne.
Non, voilà, Wisconsin, Michigan, Pennsylvanie, la Géorgie. La Géorgie, c'est maintenant un terrain tout à fait, puis on l'a démontré, c'est devenu un terrain, le Nevada, par exemple, l'Arizona. Ce sont des États qu'on peut aller chercher ou qu'on peut espérer gagner maintenant comme démocrate. Est-ce qu'on peut aller toute gauche dehors à la Mamdani? En tout cas, il va falloir qu'on travaille fort pour me convaincre. J'ai rien vu dans les statistiques ou dans les mouvements dans les dernières années qui permettent ça. Donc, d'ailleurs, hier, quand je te disais j'aurais aimé voir Mme Hochul, qui était la gouverneure de New York, hier, j'ai entendu Hakeem Jeffries, qui est, je répète, donc le meneur des démocrates, mais à la Chambre des représentants. On l'a interrogé sur Mamdani. Il n'a jamais répondu à la question. Il évite ce sujet-là comme la peste. D'ailleurs, il s'est rallié à lui uniquement à la dernière journée de la campagne. Ça s'en dit long sur la crainte qu'inspire Mamdani pour le Parti démocrate. De l'autre côté, Chuck Schumer, donc le meneur pour les sénateurs, lui, il n'en a pas parlé du tout. On ne lui a même pas posé la question. Il ne veut rien savoir. Donc, il y a un changement. Il y a une relève de la garde aussi hein, dans les choses à surveiller aux États-Unis. Il y a beaucoup de jeunes qui ont appuyé Mamdani, puis des jeunes hommes. C'est une clientèle électorale. C'était le cas en Virginie et au New Jersey aussi. C'est une clientèle électorale qui échappe plus aux démocrates. Les jeunes hommes puis les jeunes hommes blancs, ils votent plus conservateurs et ils votent plus républicains. Et whoops! Là, tout à coup, on va les chercher. Mais on va les chercher. Ce que ces gens-là s'attendent, c'est qu'entre guillemets, on ne fait pas d'âgisme, mais c'est que les plus vieux laissent la place. On est prêt pour une nouvelle génération, mais étrangement, cette nouvelle génération-là, autant elle peut aller sur la droite, on le voit avec les partis républicains, autant elle veut aller aussi sur la gauche, façon Mamdani, contre les élites. Donc, ça va être très intéressant à suivre. Et si je suis un républicain aujourd'hui, ce matin, si je suis un stratège ou un élu dont le siège va être en jeu l'année prochaine, dans mes notes, il y a discussion avec moi-même. Jusqu'où je suis Donald Trump? Parce qu'il m'a peut-être coûté des points hier, parce que dans à peu près tous les commentaires d'électeurs qui se sont exprimés dans les 4 États dont on vient de parler, ils ont tous mentionné le bilan de Donald Trump et c'était pas favorable. Donc, que ce soit sur l'immigration avec la police frontalière, que ce soit sur l'économie, que ce soit sur une gestion autoritaire de plusieurs dossiers, il y avait hier comme une fatigue Donald Trump. Alors, si je suis un élu républicain, moi qui me suis rangé derrière Donald Trump parce que je lui devais souvent mon siège, est-ce que je lui reste fidèle jusqu'à l'année prochaine? Surtout qu'il n'est pas censé revenir. Ouais, est-ce que ce n'est pas le temps de prendre mes distances? Il va y avoir beaucoup de réflexions dans les deux parties.
Pour Donald Trump, sa stratégie politique, il lui a servi. Entre autres, il a quand même divisé sa population avec ses idées. Puis il y en a qui ont été très... qui ont suivi Donald Trump dans sa politique. Puis c'est correct, je veux dire, chacun a le droit de voir les choses. Est-ce que les démocrates auraient tout à gagner de rassembler les gens au sein du pays, peu importe le parti pour lequel ils votent, ces électeurs-là, parce que, bon, je ne veux pas entrer dans lire entre les lignes, mais le nouveau maire de New York a quand même eu une petite tendance à diviser la population dans son discours hier. Est-ce qu'on est mieux de continuer dans ce que Donald Trump a fait ou on est mieux de se dissocier de la politique actuelle qui est séparatiste de Trump pour la suite des choses en espérant être élu?
Moi, je pense qu'il faut s'inspirer surtout de ce qui est arrivé en Virginie, de ce qui est arrivé au New Jersey, de ce qu'on a fait avec Gavin Newsom. On est de plus en plus près du terrain. Puis ça, c'est une chose qu'on avait oubliée du côté démocrate. Faut proposer. Mamdani a été fort là-dessus, mais très à gauche. C'est-à-dire, au lieu de faire, et là, je caricature un peu, mais au lieu d'être l'universitaire qui vous explique les grandes théories, voici comment la vie fonctionne. C'est plutôt d'aller dans la cuisine des gens ou dans leur salon pour dire, vous avez besoin de quoi? Ah, c'est comme on passe du niveau théorique à la pratique. Les démocrates, plusieurs d'entre eux, avaient oublié ça. Donc, c'est aller sur le terrain, donner des solutions concrètes à des problèmes concrets, puis ensuite, ben, miser sur la fatigue Donald Trump. C'est comme une stratégie en deux volets. Mais je répète, dans le côté pragmatique, est-ce qu'on va aller plus Gavin Newsom ou Mamdani? Imaginons qu'en 2028, on est dans les primaires démocrates puis que Mamdani est tellement populaire qu'il se présente pour être président des États-Unis. Si vous êtes un démocrate, vous allez vers qui? C'est un peu un combat revanche, mais avec des joueurs différents. La confrontation Bernie Sanders contre Hillary Clinton. La dernière fois, on a essayé Clinton, puis on a perdu. Dans un contexte particulier, c'est pas la même chose. Ça sera pas la même chose en 2028. Mais ce débat-là, on l'a déjà fait chez les démocrates, puis on était allé vers le centre. Et on a perdu deux fois. On a gagné avec Joe Biden, mais on a perdu avec Kamala Harris puis Hillary Clinton. Donc, stratégiquement, vous allez vers qui à partir de maintenant? Mais la première clé, soyez sur le terrain. Allez, relevez-vous les manches. Allez vous salir un peu dans les vrais sujets, dans le quotidien des gens, plutôt que d'y aller avec de grands débats abstraits et théoriques avec lesquels vous perdez des appuis.
Et là, de cette façon-là, ben, ça permettra aux démocrates de voir où ils peuvent aller, jusqu'où ils peuvent aller à gauche de l'échiquier politique. Luc Laliberté, toujours un plaisir de te parler.
Ah, écoute, c'est un plaisir vraiment partagé. Puis on ne manquera pas d'accord. Encore pour un an ou pour les prochaines
fois. Ah non, c'est clair. Merci beaucoup de faire partie de l'émission Nageuse et on se reparle bientôt.
Bye-bye. Bonne journée à tout le monde et aux auditeurs.
Salut Luc. Merci beaucoup. Luc Laliberté. Tellement intéressant, Pascal, de parler avec Luc Laliberté, le côté historique qu'il a de la chose et surtout de la façon qu'il nous explique comment ces courants politiques-là, justement, se dessinent aux États-Unis.
Je trouve que l'histoire est essentielle dans ce qu'on vit au quotidien, hein? Puis surtout en politique. Ouais. On dit toujours que si on ne se rappelle pas de ce qui a été fait, on va reproduire les faits, même le négatif. Donc, avec des gens qui se penchent sur ce qui a été fait et cette analyse-là, autre que sur un bon politicien ou pas...
Exactement.
Ben, c'est comme la base que ça nous prend pour la suite.
Hey Pascal, je vais profiter de la technologie. C'est-tu ce qu'on va faire? On va aller voir Lambert Drainville tout de suite parce que c'est connecté sur Zoom.
Extraordinaire.
Hein, pourquoi pas? Lambert Drainville, comment ça va?
Allô, la gang!
Salut! T'es en onde, Lambert.
Oui, c'est ça. Là, on profite de la technologie. Luc est parti du Zoom. Toi, t'es embarqué. Moi, j'ai décidé. Pif, paf, pouf, on fait Luc Laliberté, Lambert Drainville à la suite de l'autre.
Hein? Non, mais allons-y, messieurs, dames.
Ça marche-tu? Ça marche. Ben oui, hey, Lambert Drainville, tu m'as texté, puis je commence avec ça. Là, le bordel est pogné à Montréal, la STM. Là. Y a-tu quelqu'un qui peut demander au chauffeur, s'il vous plaît, de retourner chauffer un autobus?
Ouais, la décision du tribunal, moi, t'avoue, m'a commencé par ça. Je la comprends pas trop.
Écris-moi non plus.
Moi, t'avoue, là, que de dire que ça, c'est pas nécessaire d'avoir des transports, que c'est pas un risque pour la sécurité ou un risque, un impact assez grand sur les gens pour forcer le retour au travail. J'ai bien de la misère à comprendre ça. Il y a beaucoup de gens à Montréal qui sont vraiment pas contents. Puis les premiers à être impactés par ça, c'est les personnes les plus vulnérables, malheureusement, qui n'ont pas les moyens de se payer un Uber, qui n'ont pas les moyens de se payer, de traverser la ville là, en voiture ou encore moins à pied. Là. Fait que là, le ministre Dubé, pas le ministre Dubé, le ministre Boulay, a dit que pour l'instant, il laissait les partis négocier. Il y a évidemment la nouvelle mairesse de Montréal qui vient d'être élue, là, qui a dit que c'était une priorité pour elle. Hâte de voir de quelle façon elle va se mettre les mains dans ce dossier-là, puis si ça peut favoriser un rapprochement entre les deux parties. Et on me dit au gouvernement que la loi 89 là, qui a été adoptée par le ministre du Travail, justement M. Boulay, là, la loi 89 qui permet au fond de, non pas de mettre fin au conflit, mais qui donne le pouvoir au gouvernement de mettre en place un arbitre qui va trancher dans le cas d'un conflit de travail, lorsqu'il y a un préjudice grave ou irréparable sur la population. Je pense qu'on a atteint ce point-là. Ben, ce qu'on me dit au gouvernement, c'est justement que ce n'est pas exclu de devancer l'entrée en vigueur, parce que cette loi-là, elle entre en vigueur à la fin du mois. Ce n'est pas exclu qu'il pourrait devancer la date d'entrée en vigueur de la loi, mais on n'en est pas là présentement. où est-ce qu'on en est présentement, on en est que ça fait bien du monde à Montréal.
Okay.
Mais ça, c'est comme un peu étrange qu'on soit encore dans ces débats-là, je trouve, en 2025.
Que le transport en commun ne soit pas un service essentiel, alors qu'on munit nos villes de services de transport structurels.
Puis qu'on lutte pour mettre des fonds de plus, puis développer des projets, puis de, tu sais, je veux dire, ça divise à base tout le monde, quel projet on va faire, mais surtout aussi pour une question de sécurité. Si advenait le cas que ça soit aussi un enjeu de sécurité, est-ce que là, on va se pencher plus sur le fait que c'est essentiel? Est-ce que ça va devenir apparent que c'est quelque chose qui ne devrait jamais être bouché, paralysé, figé? Je sais pas, Lambert, si tu as cette vision-là aussi, mais il y a ces gens-là qui souffrent, bon, par les moyens financiers qu'ils ont pour se déplacer, mais en plus, du côté de Montréal, je veux dire, c'est l'artère prioritaire de l'île, là, le transport en commun.
Oui, puis ça rejoint mon argumentaire dont je vous ai fait part à de nombreuses reprises sur la stratégie syndicale. Moi, je trouve que les syndicats, oui, ils ont une mission super importante dans la protection des droits des travailleurs, mais qu'on parle des médecins, qu'on parle des syndicats qui ont fait des dépenses frivoles au fil des derniers mois, des dernières années que l'on parle là, je trouve que malheureusement, là, c'est des entités qui font de la politique simplement et uniquement pour leurs membres. Et je trouve ça très malheureux qu'il n'y ait aucune prise, qu'il n'y ait pas qui tiennent pas compte au final des impacts puis de ce que ça va avoir sur le Québécois moyen, sur les Québécois, toutes ces moyens de pression-là. Et comme tu le dis, Pascal, est-ce qu'on va attendre une tragédie, là? Est-ce qu'on va attendre qu'il y ait quelqu'un qui doit aller à l'hôpital, qui n'a pas les moyens de se payer une ambulance, qui devait aller à un rendez-vous médical, qui aurait pu, qui allait détecter quelque chose de grave chez elle ou chez lui, puis là, finalement, une tragédie arrive.
Des gens qui travaillent en santé, qui ont de la misère à se rendre en masse, ça retarde peut-être justement le fait de sauver de quelqu'un parce que là, il est dans le trafic avec un Uber ou une voiture, au lieu de pouvoir faire, comme d'habitude, vaquer à ses occupations avec le transport en commun. Tout est là, là.
Ouais. Absolument. Fait que je sais pas qu'est-ce que. Puis encore une fois, je ne comprends pas la décision du tribunal. Là. C'est la première fois depuis des décennies qu'on a une situation comme ça à Montréal. J'espère qu'on n'en arrivera pas là. J'espère que ça ne prendra pas une tragédie pour finalement faire du ménage dans ça.
Comment ça se passe dans les rues? Toi, tu habites à Montréal. Lambert, est-ce qu'il y a beaucoup de voitures? Ça a-tu augmenté le trafic? Ça a-tu cette paralysie-là du.
Oui, nécessairement. Oui, absolument. Non, les impacts sont à tous les niveaux. Là. Ils sont à tous les niveaux, autant chez les gens qui ne prennent pas le transport en commun que ceux qui le prennent régulièrement. Je veux dire, quand tu viens à Montréal, là, l'auto, généralement, là, c'est un dernier recours. C'est pas mal plus rapide, entre vous et moi, de se déplacer sur l'île en transport en commun avec le métro, tout ça. Fait que là, c'est déjà pas facile quand le métro est fonctionnel. C'est déjà tout un calvaire, même, je dirais, quand le métro est fonctionnel. Laissez-moi vous dire que j'ai à me rendre sur la rive sud tantôt. Je ne prendrai pas le métro, puis ça risque d'être tout un bordel.
Clairement. Lambert, une place où c'est pas facile aussi, c'est être dans les souliers du premier ministre François Legault. Et je te fais entendre ce que PSPP, Paul Saint-Pierre Plamondon, chef du PQ, a dit aujourd'hui concernant des gens de la CAQ qui l'approchent.
Mais on a...
Lambert, ça faisait suite à Isabelle Poulet hier qui a décidé qu'il voulait sortir de la CAQ, qui a dit « je vais peut-être rester un peu ». Pablo Rodriguez se dit « elle nous a approché ». François Legault, il a montré la porte de sortie. Coudonc, est-ce qu'il y a autant de gens que ça qui veulent quitter la CAQ? Parce que là, on parle de Maïté Blanchette-Vézina, Lionel Carman, Isabelle Poulet, et là, il y en aurait d'autres.
Ouais, écoute, puis là, stratégie de communication... Mon cher Jeff, ou si vraiment en coulisses, il y a des députés caquistes qui contactent le Parti québécois. Moi, ce qu'on me dit, c'est qu'effectivement, écoute, il y a beaucoup, beaucoup de députés caquistes qui étaient déjà pas super satisfaits de comment les choses allaient, qui avaient avalé ou qui avaient signé la nouvelle stratégie présentée par le premier ministre lors du discours d'ouverture, de remettre le parti sur les rails, de se recentrer sur les priorités, puis tout ça, là, tout ce qui vient avec la loi 2. Et toute l'incompréhension qu'elle suscite autant chez les citoyens, autant chez les médecins, autant chez les députés caquistes, ça fait énormément de ravages. Je pense que ça fait quand même plusieurs mois qu'il y a des députés caquistes qui ont fait des approches auprès des autres partis. Ce qu'on me dit, c'est que ce sont des députés présents du caucus. Donc oui, on a l'évidence même des députés qui auraient quitté auraient intérêt à peut-être faire quelques appels, mais on me parle de députés qui sont encore au caucus de la CAQ. Combien il va en avoir d'autres, c'est très difficile à prédire présentement. Chose certaine, chaque départ fait extrêmement mal. Ça met énormément de pression sur le premier ministre. On parle d'après les fêtes, là, comme le moment idéal, le timing, si jamais il décidait de quitter. Mais plus il y a des départs qui s'accumulent de cette nature-là, plus la pression va être grande sur ses épaules.
Ça stoppe comment l'hémorragie? Tu sais, parce que là, apparemment qu'il y a des députés de la CAQ qui ont dit à François Legault allez faire une conférence de presse, désavouer Christian Dubé puis recoller les morceaux, ce qu'il refuse de faire. Alors, ça stoppe comment l'hémorragie?
Il n'y a pas vraiment de moyens, bien honnêtement. Je veux dire, tu pourrais. Tu sais, le premier ministre rencontre ses députés chaque semaine. Il va les rencontrer encore ce soir, à chaque mercredi soir, le caucus. Tu sais, je veux dire, quand même, bien qu'il dirait, là, tous ceux qui sont présentement en train de penser quitter, bien, sacré donc votre camp. Je ne suis pas certain là, que c'est quelque chose. C'est une avenue vers laquelle le premier ministre veut s'aventurer. Mais chose certaine, c'est. C'est très, très, très tendu, très, très tendu présentement. Et on a vu aussi par la réponse de PSPP là, qu'il a clairement identifié le Parti libéral hein, comme son adversaire.
Oui.
Là, je veux dire, le PQ, si vraiment c'était encore la CAQ, leur principal adversaire, ben je pense qu'il y aurait tout à gagner à rendre certains noms publics, créer de la zizanie, peut-être d'autres départs, d'autres gens qui quittent, d'autres partiels, possiblement des victoires pour le PQ qui s'ajoutent. Et là, finalement, ils décident de ne pas mentionner de nom, mais de dire qu'ils ont l'intégrité, eux, de garder ces discussions confidentielles-là à l'interne. C'est un peu une flèche qui est envoyée à Pablo Rodriguez, qui, lui, a ouvertement mentionné que Mme Poulet faisait des appels depuis le mois d'août, d'ailleurs. Mm-hmm. Et de son côté, Jeff, Mme Poulet, drôle de sortie, drôle de façon de faire.
Oui, hein?
Ben là, tu colles un point de presse. D'habitude, tu colles un point de presse. Ben, c'est ça, d'habitude, tu connais un point de presse. C'est décidé, là, t'as fait les démarches, t'as parlé au premier ministre, t'as eu une rencontre avec lui, il veut rien entendre, puis là, t'es rendu là, puis tu colles le point de presse, tu y vas, là, c'est fait faire le bon vieux coup de « Ah, il veut me rencontrer, il veut m'entendre sur mon insatisfaction », puis écoute, quand elle est rentrée dans le bureau, finalement, c'est pas nécessairement c'est de ces insatisfactions dont le premier ministre voulait parler, mais plutôt du fait que, justement, elle avait approché un autre parti, puis qu'elle était dehors.
En effet. Bon, on a ouvert la porte aux médecins hier du côté de Christian Dubé et France-Hélène Duranceau en disant on va vous garder votre prime de 30% pour ceux qui ont des GMF. On va garder la prime pour le premier rendez-vous pour les médecins spécialistes. Ça semble pas suffisant. Tu fais quoi pour tenter de recoller ça avec les médecins?
Il n'y a pas 36 façons. Je veux dire, il est un peu... Écoute, Jeff,
dans le fond, je vais préciser ma question. Tu continues à la guerre ou tu ranges les armes?
C'est sûr qu'ils ne rangeront pas les armes. Écoute, ils sont enfoncés jusqu'aux genoux là, dans cette histoire-là. Puis tout le monde est d'accord qu'il faut changer. T'sais, c'est ça qui est drôle dans cette histoire-là, c'est que tout le monde est d'accord. Les autres partis, l'essentiel de la population est d'accord qu'il faut changer la façon dont on paye les médecins au Québec. Malheureusement, c'est un gros, gros, gros enjeu de communication qu'ils ont. J'en reviens pas, Jeff, pour l'avoir fait pendant des années aux communications, au gouvernement, qui ait sorti ça avec... Là, son panier, ils font des webinaires. Je me suis connecté hier au webinaire qu'ils ont donné, là, qui était offert aux médecins qui souhaitaient s'informer sur les changements qu'apporte la loi. Tabarouette, hey! Laisse-moi te dire, là, c'est quoi l'expression? Il perdrait son petit, là. Une chatte, il perdrait son petit, là. Quelque chose de même, là.
Ouais, ça se fait, je la connais pas.
Ouais, écoute, j'écoutais ça, là, le webinaire hier, là. Premièrement, c'était
incompréhensible.
Ben, c'est parce que c'est fait par des fonctionnaires du ministère. Ils te présentent leur PowerPoint, puis t'essaies de suivre ça. Hey, j'avais l'impression de me retrouver dans un cours au cégep.
Ils sont devant un fond bleu étrange, ouais, où ça apparaît, là, avec leur titre, ouais, leur nom en semi-gras, mais il faut que t'essaies d'ouvrir ta caméra plus proche. Ben, tu fais faire un zoom pour voir c'est qui parle, parce que t'as jamais eu affaire ni d'Ève ni d'Adam à cette personne-là. Puis en plus, les questions dans le forum devaient être approuvées par l'administrateur du chat, si jamais tu voulais en poser une.
Ouais, non, c'était...
Ben, c'est ça.
Ben, c'est ça, là, tu sais, son pognier pour rétro-pédaler, pour expliquer quelque chose qui est visiblement compliqué à comprendre, parce que le médecin, le seul médecin du gouvernement, puis le seul médecin de tous les 125 députés, il comprenait pas, en tout cas, s'il comprenait, il était pas d'accord en maudit, parce qu'il n'avait pas été convaincre sa propre femme, sa propre fille. Là, les députés qui disent, hey, écoute, je veux être bien honnête avec vous autres, les députés, ils sortent, puis ils disent, écoute, On comprend rien. On comprend rien.
Suzanne Blais, Mario Asselin hier, avec les journalistes qui leur mettent le micro. Est-ce que c'est facile d'expliquer la loi 2? Non, vraiment pas facile.
Non, vraiment pas. Il dit je n'entrerai pas là-dedans. Ben, c'est probablement ça. Que tu rentreras pas là-dedans, mon Mario, parce que tu comprends rien comme bien du monde, toi aussi.
Exactement.
Lambert, c'est-tu la fragmentation de la CAQ, là, officiellement? On est-tu rendu là avec tout ce qu'on voit?
Ah, ben là, je pense que oui, je pense que là, on est dans une espèce de le premier domino est depuis longtemps tombé, puis il ne reste plus qu'à savoir combien d'autres il va en avoir. Il va en avoir d'autres d'ici 2026, je vous le promets, il va en avoir d'autres d'ici 2026. Il y a trop de signaux de signaux d'alarme, il y a trop de gens qui parlent à plein d'autres gens. Et tu sais, on entendait encore Luc Provençal, le député de la Beauce, hier, qui disait. J'en suis pas encore rendu là.
Ouais, j'ai fait jouer l'extrait, mais il est en train de ranger des choses dans son bureau.
Ouais, t'es dit, ça,
à travers la petite craque de la porte. Ouais, pas encore. Êtes-vous en train de démissionner? Pas encore.
Pas encore, tu sais. Tu vois que ça tient, mais ça
il dit, c'est ça. Il dit, je suis pas encore rendu là.
Ouais, c'est ça. On sait pas trop qu'est-ce qu'il va y prendre de plus pour quitter, mais il y a clairement des gens qui y pensent. C'est vraiment pas une situation facile. Là. L'animal caquiste est, disons, gravement blessé, puis là, ça saigne. Puis comment tu mets fin à cette hémorragie-là? Votre proposition est aussi bonne que la mienne.
Lambert, en une minute et demie, parce que c'est ce qu'il nous reste, le budget fédéral, t'en as pensé quoi?
Beaucoup de choses qu'on savait déjà. Il n'y a pas de grosses nouvelles dans ce qui nous a été présenté hier. Je pense que la grosse question, c'était la hauteur du déficit. Il y a des gens qui parlaient même que ça pourrait se rendre peut-être à 100 milliards dans les discussions préalables. Finalement, ça s'arrête à 78 milliards. Le gouvernement, clairement, se garde une marge de manœuvre financière en cas d'extrême urgence, considérant la situation d'instabilité, d'insécurité qu'on vit présentement avec les États-Unis. La hausse des dépenses militaires, on le savait, les infrastructures, des grosses dépenses là-dedans aussi, Maison Canada, le logement. Il y a la baisse de la fonction publique. J'ai hâte de voir. On dit qu'on veut couper 40 000 postes là, dans les prochaines années dans la fonction publique fédérale. Une fonction publique qui n'arrête pas d'augmenter dans les dernières années. Et là, on dit qu'on veut couper dans la fonction publique, mais d'un autre côté, on met en place un paquet de nouvelles grosses agences. De fonctionnaires de la fonction publique, Maison Canada pour accélérer la construction de logements, le Bureau des grands projets, l'Agence de l'investissement pour la défense, toutes des affaires qui vont ajouter les employés. Puis écoute, j'ai bien hâte de voir si ça va effectivement diminuer les prochaines années. Comme dirait l'autre, moi le croire quand moi le voir.
Exactement. Lambert Drainville, toujours un bonheur de te parler. On se reparle vendredi avec Farnel Morisset. Et en attendant, la gang, allez suivre Lambert Drainville sur les médias sociaux. Il y a toujours du contenu exclusif et intéressant. Merci, mon chum, de faire partie de l'émission d'Angers.
Toujours un plaisir. On se parle vendredi.
Yes, salut! Lambert Drainville, vulgarisateur politique exceptionnel sur les médias sociaux. Allez le suivre. On est chanceux dans Angers. On a lui puis Farnel, Pascal.
On est grillés.
Sûrement les deux meilleurs.
On est grillés, comme disait le père de mon ami.
Exactement. Pascal, on va faire une courte pause, puis par la suite, on va revenir avec l'essentiel de l'actualité pour nos auditeurs.
Avec plaisir.
Et on va avoir Gabriel Giguère également qui va nous parler du budget fédéral. L'IEDM, il y croit pas au déficit à répétition à l'Institut économique de Montréal.
Ah, c'est bizarre.
Je comprends pas.
Je comprends pas pourquoi on croit pas en ces déficits pour ramener de l'argent dans les coffres.
Exactement. Donc, on parle de tout ça après cette courte pause à l'émission On en jase sur Boulevard 101. Émission On en jase. Il est présentement 13h18. Merci. Vous avez été plusieurs à interagir dans notre doublé Zoom. Luc Laliberté, Lambert Drainville. Je retiens notamment le commentaire d'Alex. Super intéressant, votre analyse de la politique américaine. Merci, on adore quand vous nous passez des commentaires comme ça. Puis honnêtement, on s'en parlait pendant la pause, moi et Pascal. On aime ça parler à l'intelligence du monde puis leur faire découvrir des je vais le dire comme ça, des aspects différents de ce qu'on entend traditionnellement dans les médias?
Ben oui, ou tout simplement se concentrer sur le monde qui a quelque chose à nous apprendre, puisque
ouais,
je veux dire, on prend pas...
Nous apprendre, ça j'aime ça.
je veux considérer que vous êtes tous intelligents, là, ceux ouais. qui nous écoutent, puis je veux dire, on n'a pas toujours les mêmes strates d'intérêt, alors pourquoi pas faire un melting pot dans On en jase, puis aller toucher tout le monde. Tu sais, moi, j'ai pas d'intérêt pour le sport, Jeff. Ben, oui, mais pour les histoires du sport, tu le sais,
oui.
ceux que je pratique, puis le football. Mm-hmm. Fait, quand tu viens qu'à me parler de Canadiens, je suis toute oui, parce ouais. que c'est pas la première recherche que je vais faire par moi-même.
Non, non, non. Mais là, t'as écouté la game hier, que tu m'as dit.
Ah, ça me prenait la garde d'un enfant pour
ah, ouais, j'aime ça.
Pour l'écouter et être dans le match avec.
Alors, qu'est-ce que t'as pensé du match, Pascal? C'est vrai, dis-moi ça.
Ben là, à un moment donné, on était comme... 0 à 3 pour
ouais, 0
contre 3, le Canadien.
Ça a commencé vite pour les Flyers.
C'était tough. Fait que là, tout de suite, le petit a dit « Ah, là, on n'aurait pas dû mettre Montembeau dans les buts. C'est pas une bonne saison pour
lui. » Fait
que
là, il était rendu Max Larouche, le petit. C'est
il
ce
était
que tu
tellement cute, Jeff. Il connaît tous les joueurs
wow.
par leur numéro.
Il a
numéro.
Quel âge?
Il a 9.
C'était écœurant.
Non, je l'ai... Non. Il y a 11.
11, OK.
Ouais, ouais, là, ouais, je vais me faire
là,
dire.
Parce que là, s'il écoute, là, il va dire, hey, j'ai 11 ans.
Yeah, c'est ça, il va me le dire, là, à l'aube du secondaire.
Parce que c'est important, ce genre, la demi est même importante.
Oui, 11 ans et demi. puis c'est ça, il est à 11 ans et demi, fait qu'on va ouais. le mettre. Mais moi, je trouve ça fascinant, là, un jeune qui parle le numéro, va reconnaître, puis savoir le nom de tel. Puis là, c'est un tripeux de Demidov, puis il m'expliquait pourquoi il est hot. Il me disait que des fois, son recruteur a 18 ans. Tu sais, ça, là, ça m'a fait
oh,
apprécier
wow.
ma soirée.
Mais
quelqu'un qui avait plein de petites affaires à me dire, qui trippait, qui était enflammé par le match. Donc, je l'ai couché, par exemple, avant la fin du match.
Okay.
J'ai dit que c'était une surprise le lendemain. Là. J'ai ouais. dit, ah, tu vas avoir la surprise. Finalement, ben, la
mais
surprise
là,
était négative.
Ben, c'est ça, il a frappé cette surprise-là.
1-1 pour Zegras devant Samuel Montembeau.
Lui, il prend un temps fou.
Montembeau doit être patient. Et là, Zegras qui accélère. Quelques fins. Tire entre les jambières.
C'est
entre,
ça, là.
Ouais, ouais. Entre les jambières, Trevor Zegras, victoire des Flyers 5-4 hier en fusillade. J'ai aimé l'analyse de Martin Saint-Louis qui a dit c'était notre pire match de l'année. On a récolté un point, on va le prendre. Puis en même temps, tu voyais qu'il n'était pas fâché de l'avoir perdu parce que ça prend des petites leçons de même dans une équipe. Des fois, quand tu te dis, là, il y a une couple de fois qui remontait puis qui gagnait en prolongation. Là, c'est comme si les gars étaient rendus au-dessus de leurs affaires.
Assis sur leur laurier, comme
ouais,
on dit.
Fait que là, oups, ça les a ramenés à la réalité. Hey, les boys, on n'est pas invincibles.
Puis t'as-tu entendu le point de presse? Il disait, moi, je veux que mes gars, s'ils veulent gagner un championnat, aient l'attitude de gars en championnat,
oui.
même quand ils ne sont pas rendus au championnat.
En effet.
Saint-Louis est vraiment bon pour dire quelque chose sur lequel il faut qu'on saigne un peu du nez, puis après ça, on se replace.
Ah ouais, les chaises.
C'est entre deux
les
chaises.
Les dames, les échecs.
Mais c'est vrai.
Ben
si
oui.
tu veux atteindre quelque chose, il faut que tu aies l'attitude pour l'atteindre.
Clairement.
Parce que c'est l'attitude qui détermine l'altitude.
Oh, j'adore cette philosophie. Je vais la retenir. Si tu me permets, des fois, je vais l'utiliser comme coach. Genre, OK, hey, les gars, c'est l'attitude qui détermine
l'altitude. Moi, c'est un de mes mantras de vie. Ouais. Ça, puis patience et douceur valent ouais. mieux que force et rage.
Là, j'ai peut-être un ado dans la chambre d'hockey qui va dire « Qu'est-ce que tu dis là, coach? »
Cinq du nez.
Mais j'expliquerai après, c'est pas grave.
T'écouteras les speeches de coach chez V.
C'est ça, exactement.
C'est quand la prochaine game, mon Jeff?
Ah, la prochaine game du Canadien, c'est ce jeudi et ça va être contre...
Alors, demain.
Oui, c'est vrai, demain, mais j'ai demain. Dit ça jeudi. Ouais, oui. Demain, on est jeudi. Et à ta minute, je vais juste aller voir si je me souviens bien, c'est contre le match qui affronte le Mammouth de Utah dans les deux prochains matchs.
Ça, c'est l'ancienne équipe qui s'appelait...
Les Coyotes de Phoenix. Qui l'année passée s'appelait juste le Utah Hockey Club. C'est les Devils. Ils sont à New Jersey jeudi okay. et ils affrontent le Mammouth de Utah samedi. Donc, les Devils qui ont une excellente saison jusqu'à présent. 9 victoires, 4 revers, ça va être un très, très, très bon match. Sinon, dans l'actualité, qu'est-ce qu'on suit, Pascal Cévé?
Si je fais du pouce sur les événements sportifs, il y en a un qui a marqué la ville de Québec dans les derniers mois. Puis là, on a le bureau du coroner qui a conclu dans cette histoire. Là, rappelez-vous que M. Agouba est décédé subitement pendant une compétition d'entraînement
oui.
fonctionnel à Québec. C'était en avril dernier. Et là, le coroner qui était au dossier, Maître Donald Nicole, pointe l'absence de plan d'intervention, d'équipe médicale dédiée et le matériel de premiers soins complet pendant la compétition sportive d'assez haut niveau. Dans le fond, c'est une course d'endurance. Puis les gens vont là avec assurément tout ce qu'il faut, du cœur au ventre, comme on dit. Ils veulent gagner, ils veulent se dépasser. Ça vient avec des risques. Et ça a été un risque fatal pour cet homme-là. Par contre, on dit que l'intervention plus rapide n'aurait pas changé l'issue fatale pour M. Agouba. Mais on y va quand même en pointant certaines choses, en disant malgré tout, là, dans une compétition comme celle-là, on devrait avoir plan d'intervention, comme je vous dis, équipe médicale, etc. Là, il n'y en avait pas. Il n'y avait rien qui était dédié pour superviser l'événement. Pas de matériel non plus. Donc, c'était un événement qui regroupait quand même près de 1000 personnes au Centre de foire de Québec. Les participants, le participant de 46 ans qui s'est effondré, comme je vous disais, faisait l'épreuve de course à pied. Puis là, on a vu qu'il y a eu un malaise cardiaque soudain. Il s'est effondré. Puis son décès est lié à une condition cardiaque précaire, une activité physique intense. Alors voilà, on dit que c'est pas à cause de ça.
C'est ça.
Ça aurait pas changé l'issue. Mais par exemple, il aurait fallu avoir plus de précautions.
Je vais prendre ta relève parce que là, tu as été cogné le coude.
Dans le nerf.
Ah oui, ça fait mal.
Mon visage change.
Oui, exactement. Bon. Non, mais tous ceux qui participent à des compétitions sportives comme ça, puis je sais, moi, j'en participe toujours à quelques-unes par année. Écoutez votre corps. Ça se peut qu'une journée, ça aille moins bien. Moi, je l'ai vécu au marathon, il y a 2 ans. À un moment donné, je suis arrivé à mi-marathon, j'ai dit, bye-bye, si je continue à ce rythme-là,
ça ira
peut-être
pas.
Que ça ira pas. Tu sais, je
t'en avais fait d'autres auparavant.
J'en avais fait d'autres. J'ai ralenti le pas. Il y a ça que Val me suivait sur le parcours, puis j'y ai écrit, j'ai pris le temps, un petit
ça va être
minute
ça aujourd'hui.
De marche, j'y ai écrit, j'ai dit, sais-tu quoi, chérie? File pas top shape aujourd'hui, fait que sois patiente, m'a passé à un moment donné, mais pas rapidement.
Très bon conseil, coach Fortin.
Ben oui, puis j'ai fini le marathon, puis j'étais aussi heureux que si je l'avais couru, 15, 20 minutes
plus rapidement.
Mais t'aurais
peut-être même arrêté de faire le marathon si t'avais continué.
Exactement, j'ai pris la décision de dire, je vais franchir les 42 km et non pas de dire, j'essaie de faire le temps que j'avais pensé faire.
Oui, c'est triste tout de même, hein, on s'entend. Alors, très bon conseil, puis on pense à la famille.
Oh, clairement.
Mais l'histoire est bouclée. Troisième lien, il y a le ministre Julien qui a fermé la porte à un changement de corridor. Ça vient de sortir dans les dernières minutes, donc il persiste et signe. Jonathan Julien, il n'a aucunement l'intention de reculer sur le corridor qui a été retenu. Ça, c'est pour entre les ponts existants puis les centres-villes de Québec et de Lévis. Ça avait été dévoilé en juin dernier. On ne retournera pas en arrière. Il a tranché. C'est le ministre des Transports, de la Mobilité durable. Il a dit ça à l'entrée du caucus de la coalition Avenir Québec ce matin. Il dit « J'ai une approche rigoureuse sur le troisième lien. » En juin, on a énoncé le corridor. Les travaux qu'on fait actuellement pour trouver le budget ciblent le tracé détaillé. C'est du carottage, c'est du forage par des experts avec la rigueur. On va pas en arrière, on voit rien. Alors voilà.
Alors voilà, c'est une demande de Stephen Blaney d'aller à l'Est, justement, le nouveau maire de Lévis. Fait que on change de maire, mais on va rester dans le même combat. C'est ce que je comprends, Pascal?
Oui, exact. je vais un peu plus rapidement, mais il y a plus de 75 ados qui ont été arrêtés pour des violences liées aux gangs en 2025. C'est un nombre qui nous tombe déçu dans l'actualité. Donc, devant une hausse de violence sur son territoire, la police de Québec a donné un coup de barre pour freiner le recrutement des jeunes dans les gangs de rue. C'est pas rien, là. 75 adolescents et plus qui ont été arrêtés au cours de la dernière année en ce qui concerne des crimes de ce type-là. Et aussi, une autre nouvelle, une des avocates de Marc-André Grenon, qui est coupable de faute déontologique. Donc, c'est la procureure Vanessa Farran qui a été reconnue coupable par le conseil de discipline du barreau. Elle aurait commis, selon lui, un comportement indigne d'un avocat parce qu'elle a mis à mal la dignité et la réputation de la profession dans une vidéo publiée sur Instagram alors qu'elle défendait le meurtrier Marc-André Grenon. L'autre avocate au dossier, maître Karine Poliquin, a été acquittée des mêmes chefs d'accusation.
Une petite dernière pour la route?
Oui, je peux te parler de Québec qui va abolir ou fusionner une dizaine d'organismes gouvernementaux. Donc, l'INS et l'INSPQ notamment seront regroupés au sein d'un seul et même institut. Ça aussi, c'est sorti aujourd'hui. Donc, le gouvernement Legault qui se lance par voie législative dans une réorganisation des structures et des activités de l'État québécois. Ça veut dire quoi? On coupe, tout simplement. On va fusionner, on va ramener du travail au même endroit, fort probablement couper dans le personnel. C'est le projet de loi 7 qui a été présenté à l'Assemblée nationale ce matin. Ça a été présenté par le Conseil du Trésor. Entre autres, abolition, fusion d'une dizaine d'organismes gouvernementaux. C'est un texte de 100 pages qui devrait être adopté. La CAQ, vous savez, demeure majoritaire au Salon Rouge, malgré les récents départs, là, entre autres de plusieurs ministres que vous connaissez, dans les derniers jours, les dernières semaines, les derniers mois. Le cas échéant, il y a plusieurs changements qui vont être apportés, entre autres dans le secteur de la santé. Vous le savez, mais Urgence Santé va devenir une filière de Santé Québec. 3 laboratoires vont être transférés à la Société d'État, maladies infectieuses, toxicologie, dépistage. Emma Québec aussi va prendre en charge les activités de dons et de transplantation d'organes qui étaient réalisées par Transplant Québec. Alors vraiment, on voit qu'on veut fusionner pour couper dans les dépenses.
Mmh, clairement. Pascal, t'es-tu un amateur de bière, toi?
Oui, j'aime bien ça.
Oui, parce qu'on a fait la gravelle. Hein?
Oui.
T'as vu ça à notre soirée des 20 ans pour Denis Véro, 10 ans pour Boulevard.
Une bonne blonde, là.
Une bonne blonde. Une bière de soif, tu sais, 4%. Ouais.
Qui se boit
cool,
bien.
Hein, qui se boit bien. Et là, ben, dis-moi, là, il en reste encore un peu, je pense. Hein?
Il en reste encore un peu. C'est sûr que nous autres, on a un petit coup de cœur pour vous envoyer du côté du Chaloux, dans les dépanneurs
ben
Chaloux.
Oui.
C'est des partenaires d'affaires exceptionnels. Partenaires d'affaires qui nous permettent d'être en onde puis de vous parler. puis ils sont toujours là. Hein, ils lèvent toujours la main pour être présents. Donc, la gravelle qui est disponible en quantité limitée. Il en reste quelques packs. On dit prenez des packs parce que ça part
ouais,
vite.
C'est ça.
Puis vous allez l'aimer, là, on vous le garantit. Un saut d'approbation boulevard avec toute notre face dessus. Puis il y a la brasserie Malco aussi au marché Jean Talon de Charlebourg. Alors, elle est là. C'est un style de bière qui va plaire à beaucoup de monde. Une blonde lager, légère, dorée, vraiment rafraîchissante. C'est pour une cause. On ne fait pas ça pour se la péter.
Non, pas du tout.
On fait ça pour remplir les coffres de la bouchée généreuse. Donc, pour faire manger les gens qui en ont besoin, qui en arrachent financièrement. Fait que pendant que vous buvez une bonne bière, vous relaxez, vous aidez. Moi, je pense que c'est un deux pour un qui se vaut.
Vraiment.
Puis pour chaque bière vendue, il y a une partie des profits qui est justement remis à la bouchée généreuse, donc organisme d'ici qui nourrit les familles de Québec. C'est notre façon de célébrer tout ça en redonnant à la communauté.
C'est une très, très belle façon. Donc, allez dans les Chaloux, vous procurez la gravelle. On s'en va rejoindre. Il est analyste politique senior pour l'Institut économique de Montréal, Gabriel Giguère. Gab, est-ce que tu as pris une, deux, trois ou quatre bières pour oublier le déficit de 78 milliards et de 322 milliards pour les quatre prochaines années?
Ah, moi, je suis allé sur le fort direct. J'avais pas le temps de niaiser.
Ah, ouais, c'est ça.
Les chiffres étaient pas assez bons, là.
Tu t'es engourdi rapidement, mon ami.
Ah, ben, on n'a pas le choix, là. C'était trop. Ben, tu sais, c'est parce que quand on nous explique qu'on va avoir un banquier mondial puis qu'on a des chiffres bien pires que Justin Trudeau, c'est là qu'on se demande qu'est-ce qu'on a fait collectivement à élire ça, en tout cas, bref.
Finalement, le professeur d'art dramatique, Gabriel, savait mieux compter. Qu'est-ce qui se passe, là?
Ben, c'est ça le problème. Là, on voit qu'on a 78 milliards de déficit. Quand on regarde sous Justin Trudeau, on exclut la pandémie, là, évidemment, qui était particulière. On n'avait jamais vu ça, 78 milliards. Donc, on comprend qu'on a vraiment été trop loin avec le gouvernement. On a décidé de mettre de côté la rigueur fiscale. Puis pire que ça, quand on regarde les projections, là, il n'y a aucun horizon de retour à l'équilibre budgétaire dans 5 ans. 2029-2030, on pense encore avoir 56 milliards de déficit. Mmh. Je veux dire, si on pensait que le gouvernement libéral avant lui était peu rigoureux sur le plan fiscal, je pense qu'aujourd'hui, on le comprend très bien, on dépense à tout va et malheureusement, il y a des bonnes mesures. Hein? Il y a une diminution d'un point de pourcentage dans le premier palier d'imposition. C'est des centaines de dollars dans nos poches supplémentaires. Puis je pense que collectivement, ça va faire du bien d'avoir un peu d'air. Mais en parallèle à ça, on n'a pas le courage de couper les dépenses. Ce qu'on vient de nous expliquer, c'est que pour la catégorie de fonctionnement, qui est, on y reviendra assurément, là, mais c'est une fumisterie comptable, on réduit les dépenses, mais c'est pas une réduction de dépenses qu'on a, plutôt une réduction de la croissance de dépenses. C'est pas une réduction de la croissance. Il faut couper les dépenses. Malheureusement, le gouvernement Carney n'a pas, ou plutôt son ministre, en tout cas, M. Champagne, n'a pas eu le courage politique. Ça me semble assez évident.
Non, en effet. Et du côté, là, justement, de ces déficits-là à répétition et du fait qu'on n'arrive pas à l'équilibre budgétaire, même la CAQ, dans son déficit record, au bout d'une période de 4 ans, arrive à l'équilibre budgétaire. C'est particulier. Il me semble que j'ai toujours vu des gouvernements, lorsqu'ils déposent des budgets déficitaires sur une période de 4 à 5 ans, promettre le retour à l'équilibre. Et là, dans le cas du gouvernement Carney, on fait juste dire « Hey guys, on va être en déficit, mais faites-vous-en pas, on investit. On prend des dépenses d'investissement. » Je trouve ça très particulier.
Voilà. Voilà, Jeff, je pense que tu mets le doigt sur quelque chose qui est vraiment important parce que là, on est vraiment devant un changement de paradigme avec ce nouveau gouvernement-là. On vient nous expliquer, en fait, que l'équilibre, la rigueur fiscale, c'est plus l'équilibre budgétaire. Non, non, mais attendez un petit peu, là, ça fonctionne pas, messieurs. Effectivement, on pense que ça va être plus qu'à 50 milliards de déficit et c'est là le cœur de la fumisterie comptable, là. Tu sais, on vient nous expliquer que maintenant, on divise le budget. On a le budget d'opération puis le budget d'investissement. Puis on va atteindre l'équilibre budgétaire en matière d'opérations en 2028-2029, mais on va encore avoir un déficit d'investissement de plus de 50 milliards. Mais quand on commence à creuser, là, puis à gratter, puis dire, c'est quoi cette affaire-là d'investissement? On va c'est quoi, là? On comprend que c'est des subventions puis des crédits d'impôt. Fait que concrètement, c'est du fonctionnement. très concrètement, ce n'est pas de l'investissement. T'as au gouvernement du Québec, là, à chaque mars, quand on dépose un budget, t'as le budget d'opération, la santé, l'éducation, puis t'as le budget de capital, là, quand on construit des écoles, ouais, quand on construit...
Le programme québécois d'infrastructure.
C'est ça. Ben, t'as de la brique après, je veux dire, t'as quelque chose de concret. Mais le gouvernement Carney, il essaie de nous faire croire collectivement que c'est la même dynamique, sauf qu'il prend notre argent pour l'envoyer aux entreprises. C'est vraiment de la fumisterie comptable, puis même le bureau du directeur parlementaire du budget, là, qui était un peu le chien de garde là, en matière de coûts des politiques publiques, a dit « Attends un peu, là, c'est très douteux cette approche-là, c'est pas tout à fait ça, on respecte pas les définitions. » Donc, concrètement, on essaie de nous faire croire que c'est de l'investissement, mais c'est du fonctionnement, puis on est en déficit. Puis ça, là, hier matin, dans le Globe and Mail, super analyse qui a été faite, on a regardé les 10 années Trudeau, puis l'endettement sous Justin Trudeau en 10 ans va faire en sorte qu'un jeune aujourd'hui va payer un supplément d'impôt sur le revenu de 30 000 $ pour couvrir l'endettement de Justin Trudeau, et on a un gouvernement qui fait pire.
Gabriel, est-ce qu'on va essentiellement chialer sur n'importe quel parti qui va être élu, sur n'importe quel budget pour la suite des choses, parce que on est dans le trou, puis il faut le dire, puis ça va être complexe d'en sortir, puis je suis même pas sûr qu'on va en sortir de notre vivant, là.
Je pense qu'on va être critique de plusieurs, mais là, ici, il faut être critique parce que c'est une question de boussole. On n'est même plus en train de dire, est-ce qu'on est à l'équilibre budgétaire? Le déficit, il est gargantuesque, là. C'est mammouth. Maintenant, c'est qu'on n'a même pas la volonté de faire comme si on veut retourner à l'équilibre budgétaire. On s'assume, et ça, c'est un vrai changement. Parce que Jeff l'a dit, quand on est au Québec, on se dit, ben on le sait que c'est un déficit historique, mais on va se rendre vers l'équilibre budgétaire, on va être rigoureux. Ne vous inquiétez pas, aujourd'hui, on a complètement changé. On veut instrumentaliser la tension commerciale pour venir justifier son manque de rigueur budgétaire, et ça, c'est alarmant. Maintenant, c'est aussi une démonstration, puis je suis content que tu dises, c'est une démonstration du modèle de l'État qu'on a, hein, un peu le modèle de l'État-providence. Sous le gouvernement fédéral, ben, a décidé de créer un programme d'assurance médicaments, un programme d'assurance dentaire qui existait à toute fin pratique déjà à partir d'employeurs privés. On a également décidé de mettre son nez dans les lunchs des petits plutôt que de laisser les parents faire les lunchs. La question des garderies à 10 $. Bref, on a un état social qui augmente au Canada. On veut augmenter d'autres postes de dépenses, mais à un moment donné, le contribuable ne peut pas payer. Et donc, ce qu'on vient faire ici, c'est qu'on vit sur des largesses et on va s'endetter pour que les générations futures, comme j'ai dit, ça fait pas longtemps, mais vont payer plus, vont devoir payer les intérêts sur la dette parce qu'il va falloir au moins payer ces intérêts-là. Aujourd'hui, ces intérêts-là sont à 56 milliards. Dans 4 ans, on tombe à 76 milliards. Parce que 76 milliards, c'est 10 milliards de plus que le coût de la santé au Québec aujourd'hui. C'est énorme. Aïe, aïe. Et ça, ben, le gouvernement fédéral nous apporte un peu dans le mur, j'ai envie de dire, là.
En effet. Gabriel, j'ai Maxime Larouche qui travaille avec nous, qui vient de nous écrire justement que Dimitri Soudaz sur les zones d'RDI vient de mentionner qu'un député conservateur de l'Alberta rejoindrait les rangs des libéraux d'ici 48 heures et sûrement un député venant de l'Ontario également. Ça donnerait une majorité aux libéraux. Est-ce que tu crois qu'avec une majorité, le gouvernement libéral va plus sabrer dans des programmes justement comme le programme dentaire, comme la fonction publique, parce qu'ils n'auront plus besoin de l'appui du NPD?
Je l'espère en toute franchise. Je pense qu'on n'a pas le choix aujourd'hui là de vraiment sabrer ces programmes-là parce qu'on nous explique que c'est de l'économie, mais en même temps, on garde les programmes sociaux, ça pourra pas fonctionner les deux. Donc, on l'espère, sans quoi c'est des endettements assez gargantuesques. Là, t'as ouvert en disant 320 milliards d'endettements. Ça fait peur, puis ça, ben, va falloir la payer. On le voit, là, ça explose au courant des prochaines années. Donc, on espère quand même qu'il va y avoir une révision des programmes et aussi une révision de l'ambition de réduction du nombre de fonctionnaires. Parce que dans le budget, ça dit, bon, sur les prochaines années, on va réduire de 38 000 fonctionnaires. Il y en a déjà 10 000 qui ont été clearés, en quelque sorte, qui ont été remerciés, devrais-je dire. Maintenant, 38 000, c'est insuffisant. Ça prendrait 64 000 pour revenir à l'ambition de Chrétien, puis ça, ben, on pourrait débloquer beaucoup plus d'argent, avoir un retour un peu plus crédible aussi, ou l'idée de revenir vers l'équilibre budgétaire. Bref, il va falloir que ça change, là. C'est un premier budget qui donne le ton, mais le ton, je pense pas qu'il est très intéressant pour les Canadiens. Puis on peut nous expliquer de mille façons que c'est un budget générationnel, mais tout ce que je vois de générationnel, c'est l'endettement.
En effet, t'as entièrement raison. Je termine avec une question d'un auditeur, Gabriel. Est-ce que, et ça c'est une bonne nouvelle, c'est le retrait de la TP GPS sur l'achat d'une première maison. Est-ce que c'est autant pour une nouvelle construction qu'une maison déjà existante, mais que c'est mon premier achat à moi?
C'est une bonne question, moi, de ma compréhension. Rapidement, ça a été des nouvelles maisons. Il faudrait quand même revérifier, là, mais normalement, c'est supposé d'être sur les premières maisons. Mais en même temps, ça, c'est une bonne chose. J'en conviens tout à fait. En parallèle, on veut que l'État prenne en charge la construction de maisons. Je pense que ça explique en partie aussi les dépenses futures. Puis je pense pas que ce qu'on veut collectivement, c'est que ce soit Carney et les fonctionnaires qui s'occupent de la construction de maisons. C'est un petit peu particulier.
Non, on a des bons entrepreneurs, notamment ici à Québec. On a un William Trudel qui est bien capable de construire des maisons sans avoir besoin de l'aide du gouvernement.
Qu'on lui laisse.
Yes! Hey, merci Gabriel Giguère. Toujours un plaisir de se parler. On se reparle la semaine prochaine dans l'émission d'En Jase.
Absolument un plaisir.
Salut mon ami Gabriel Giguère, analyste politique senior pour l'Institut économique de Montréal. Toujours très intéressant d'avoir son point de vue. Pascal, on fait une courte pause et par la suite, tu veux envoyer un message particulier à une auditrice qui, malheureusement, là, vit des moments très précaires.
Oui, merci d'avoir la bienveillance de me laisser le faire. Parce que ça fait plus de 10 ans qu'elle est dans ma vie. J'ai commencé à faire de la radio, j'étais toute jeune.
Oui.
Puis... elle est encore là, mais pas pour longtemps.
Ouais, donc on va faire ça après la pause, Pascal. Je vais t'accompagner dans ce moment plus difficile pour toi, ne t'inquiète. Donc, courte pause à l'émission d'En Jase. On revient par la suite. Vous êtes sur Boulevard 102.1.
En Jase. Boulevard 102.1. Avec Jeff Fortin et Pascal CV.
L'émission d'En Jase, il est présentement 13h46. Comme d'habitude, c'est Gravel dans le retour qui va suivre. Denis est en vacances cette semaine, donc c'est avec Véronique Bergeron, Audrey Pinchot et Gab Marino. Par la suite, ce sera Marceau le soir et demain, on refait le tour de roue avec Marceau le matin. Le point de max, c'est de midi à 14h. Ce sera moi et Pascal CV pour l'émission On en jase. 5 degrés de la pluie pour aujourd'hui. Demain, 3 degrés généralement nuageux. Et on parle de 0 degrés avec peut-être de la neige intermittente pour vendredi. Donc, un mercure qui descend, c'est tout à fait normal. On est au mois de novembre. Pascal, on parlait avant la pause justement que tu voulais t'adresser à une auditrice de Boulevard 102.1 qui malheureusement vit des moments difficiles et même malheureusement est dans une situation de fin de vie. Puis je comprends que ça vient te chercher, t'affecte, parce que moi ça fait juste 3 ans que je fais de la radio, mais j'ai plein d'auditeurs qui m'écrivent des fois sur mon Messenger. Mm-hmm. Puis moi on dit que j'aime ça. D'ailleurs, Éric souvent qui m'écrit, « Hey, t'as parlé de ça aujourd'hui en ondes, t'as dit telle chose sur tel politicien, puis sais-tu, je suis d'accord avec toi. » Ou même des fois qu'il y a me dire, hey Jeff, je suis pas d'accord avec toi sur ce point-là, mais hey, merci, tu m'as amené. Puis moi, j'aime ça parce que ça crée des discussions, puis ça me permet de voir des fois les choses différemment. Donc, j'adore quand les auditeurs m'écrivent puis nous écrivent au 418-971-1021. Mais là, c'est une auditrice qui te suit depuis 10 ans, donc depuis que tu étais une jeune fille fringante à aller combattre Régis Labeaume,
ce qui était pas une mince affaire. Exactement. D'apprendre mon métier aussi.
Oui, c'est ça qui te suit. Donc, je te cède la parole, je te laisse justement lui adresser un mot, je pense que, puis, mais premièrement, je vais te féliciter pour ta bienveillance, je vais te féliciter d'avoir l'audace et le courage de le faire ici en onde, bravo, c'est vraiment une extraordinaire initiative de ta part.
Je sais pas ce qu'on a fait dans la vie, Jeff, pour avoir ce canal de communication-là, on est vraiment choyés, puis la façon de le respecter, puis de respecter les gens qui nous écoutent, je pense que c'est de ne pas le prendre pour acquis.
Oui.
On n'est jamais seul, puis ça, c'est grâce à nos auditeurs. Puis étrangement, il y en a certains qui vont vivre plein d'époques de notre vie, plein de moments de notre vie en notre compagnie, puis par le ton de voix, la façon de livrer des sujets, la sensibilité de certaines choses, il y en a qui comprennent des trucs. C'est un lien qui est assez... moi, je pense qu'il est supérieur à bien des choses qu'on va pouvoir vivre, toi et moi, dans la vie. Puis surtout très privilégié. Fait que il y a des gens comme ça qui sont importants. Puis je pense que le médium est important. Fait que moi, j'ai su, c'est ça, dans les derniers jours, par un simple message le matin. Puis je t'avais dit, ah, excuse-moi, je vis un drôle de matin quand je suis arrivée la semaine passée, puis c'est ça qui se passait. Quelqu'un qui est là depuis, c'est ça, mes 21 ans. Ça fait 31 ans que je fais de la radio, que j'ai 31 maintenant, elle est là depuis mes 21 ans, donc faites le compte.
Une personne qui t'a vu grandir, ouais, on se le cachera
pas. Littéralement. Puis qui m'écrit de façon régulière, tu sais. Mm-hmm. J'ai jamais vu cette femme-là. J'ai écrit le message parce que je veux me rendre à la fin.
Parfait.
Fait que merci avant de terminer l'émission, je voulais prendre cet instant-là, puis c'est un instant que je trouve important, Jeff. Donc, pour cette glace-là, je te remercie. C'est difficile, mais c'est bienveillant de ta part que tu me laisses le faire.
Écoute, ça fait un énorme plaisir.
D'abord, merci à tout le monde pour votre fidélité, vos rires, vos débats, vos partages, vos témoignages, puis votre façon de voir les choses. Merci pour vos opinions de tout acabit, toujours avec le cœur, avec émotion, de la personnalité, puis un brin de frustration parfois. Mais vous nous faites vivre bien des choses. Puis c'est exactement pour ça qu'on en fait de la radio. Pour vous, avec sérieux, sans se prendre au sérieux, comme j'aime le dire depuis des années. C'est pour ces raisons-là, pour tenter de vous donner une voix comme un groupe d'amis audio à une fréquence de vous. Chaque jour, c'est grâce à vous que cette aventure-là a du sens. Derrière ce micro-là, on n'a aucune voix sans vous qui écoutez, qui vibrez, qui choisissez consciemment ces ondes. Ça fait plus de 10 ans maintenant, à 31 ans, que je fais ce métier-là. Puis il n'est pas parfait, non, mais il n'est pas encore mon ex, parce que le lien entre vous et nous, il est fort. Mm-hmm. Puis aujourd'hui, je veux adresser un message tout particulier à France, une auditrice qui a choisi de partir dans les prochains jours, trop jeune, 61 ans. Elle a pris la décision de bénéficier de l'aide médicale à mourir pour arrêter de souffrir. Puis elle a lutté durant plein d'années pour une meilleure santé, à travers une erreur médicale aussi qui a empiré son état. Puis cette femme-là, en plus de son combat, je l'ai vue mener les vôtres, discuter avec vous, vous défendre, participer aux conversations. Puis grâce à ces ondes-là, avant son départ, bien, ça me touche vraiment que vous le sachiez. Puis sans le savoir, bien, on est tous ensemble finalement dans ce départ-là. Si je peux être un peu plus personnelle, je sais que c'est une auditrice qui m'écoute depuis que j'ai 21 ans, comme je vous dis. Puis je l'avais jamais rencontrée, jamais croisée. On n'avait personne en commun, mis à part ce canal de communication-là. Puis ça me fascine. Ça me fascine d'avoir ce lien-là avec cette femme-là. Puis elle est présente depuis si longtemps. Donc, je la remercie de m'avoir dit qu'elle allait quitter. Pour pas que je me demande elle est où,
c'est un bon point.
C'est personnel, mais quand même. Puis vous savez quoi? Bien, c'est pareil pour vous qui écoutez. L'affaire, c'est qu'on n'a pas toujours la chance de savoir ce que vous vivez. On le sait pas toujours aussi bien que pour France, puis je me trouve chanceuse là-dedans, j'ai su. Puis j'ai l'impression de comprendre l'essentiel de tout ça, finalement, à la radio. De dire bye avant de pouvoir voir ses messages, je trouvais ça important. Tu fais partie de la grande famille de cette émission-là, de Boulevard 102.1 France, parce qu'au final, c'est ça, la radio, c'est une famille. C'est de bons amis, des cousins qui gossent des parents autoritaires, mais avec un lien de cœur, sans avoir le lien de sang. Toute l'équipe et moi, les auditeurs, on t'envoie beaucoup d'affection à travers ces dites ondes qui nous rassemblent plus qu'on pense. On pense fort à toi, à ta famille, puis on va toujours garder une place spéciale pour toi ici. Merci à vous tous, les auditeurs, d'être là, d'aimer, d'écouter, de partager, de créer cette grande famille rassembleuse, c'est pour vous. Puis grâce à vous que la radio reste ce lieu de chaleur-là, d'humanité puis de vie. Merci pour tout, France. Je pense que je peux dire pour tout le monde qu'on t'aime.
Ah, clairement, on pense à toi, France. On sait que tu es à l'écoute. On te souhaite beaucoup.
À l'hôpital.
Ouais, à l'hôpital, on te souhaite beaucoup de bienveillance dans cette fin de vie, dans cette fin de combat. Tu seras toujours là dans nos cœurs. On va toujours être avec toi. Puis on sait, je suis certain que d'en haut, elle va écouter nos émissions.
C'est
juste qu'elle ne pourra plus commenter.
Je trouve ça fou, là, parce que tous ceux qui écrivent au 88.
Ouais.
971-1021 qui sont fâchés, qui tripent, qui rient avec nous, ben ils choisissent d'être là, puis on sait pas ce qu'ils vivent.
Mm-hmm. En effet.
Au quotidien. On sait pas ce que vous vivez, puis vous le partagez quand même avec nous.
Oui, en effet. Puis souvent, il y en a qui le partagent, puis moi, je me fais toujours un devoir de leur écrire et de leur dire qu'on est là, parce que c'est vrai, tu l'as si bien dit, on est une belle famille. Là, t'as plein de beaux messages d'amour, Pascal, c'est vrai, avec raison, parce que tu viens de le faire d'une façon exceptionnelle. Tu sais, ici, là, j'ai un message. Ah, tu es une très bonne personne, Pascal. J'envoie plein de courage et de douceur à Madame France, avec raison.
C'est vraiment c'est clair. Pour France, puis pour vous tous, puis pour la famille. Puis si vous vivez des choses difficiles, ben on le sait peut-être pas, mais on est derrière vous parce que c'est ça. Jeff, tu le dis, j'ai l'impression que c'est une famille puis tu le vis depuis 2 ans, mais
clairement.
On est choyé de faire notre métier puis on n'est pas toujours conscient à quel point dans votre foyer, des choses qui se brassent puis que vous nous parlez à travers de la radio, puis que peut-être que ça fait une différence.
Ah, vraiment, on est tellement choyés d'être en contact direct avec les auditeurs. Antoine qui écrit même, je connais pas France, mais oui, on t'aime, une équipe, ça se tient, big love, donc avec raison. Pascal, tu es merveilleuse, un très beau message. Julie, tu as entièrement raison, Pascal, ça a été livré à la perfection. T'es une machine, t'as monté le Kilimanjaro, puis là, tu viens de réussir à faire ça. Tu m'impressionnes.
Ben, en tout cas, c'est pas... tu sais que je fais pas ça pour ça, mais je veux...
Non.
C'est ça, on vous salue, puis je pense que France, c'est un beau... Je pense qu'elle va être sincèrement touchée d'être ce canal de communication, parce qu'elle est une femme très humaine, là, ce canal de communication-là, pour que on réalise la chance tous et chacun de savoir au quotidien dans quelque chose qui est froid, parce que c'est professionnel, mais en même temps, tellement doux et tellement chaleureux.
T'as entièrement raison. Continuez vos extraordinaires messages. Je sais que Pascal les lit tous pour le moment. Et honnêtement, vous le savez, vous êtes très, 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 très important pour nous, les auditeurs de Boulevard 101.
Vraiment.
Continuez de nous écrire. Même quand vous êtes en désaccord avec nous, ça nous fait plaisir.
Même quand vous êtes fâchés, gossez-nous. Oui. Faites tout ce qu'une famille peut faire.
Écrivez-nous. Il y a zéro problème avec ça. Au contraire, on aime savoir votre... On aime connaître votre opinion. On aime connaître vos sentiments. On aime connaître vos histoires. Ça nous permet de grandir tout ensemble et de réussir justement à cheminer et à avancer dans la vie. Pascal Sévec, hein? Je te fais un gros fist bump. Good job! C'était vraiment, vraiment, vraiment un très beau message. Le retour de Gravel suit dans l'instant. Nous, on se parle demain à midi dans l'émission On en jase. Passez une super belle après-midi. Puis avec le message que Pascal vient de nous livrer, serrez donc quelqu'un dans vos bras aujourd'hui. Oui.
Rappelez-vous pourquoi vous vous aimez.
Exactement. Alors, merci beaucoup d'avoir été à l'écoute de cette émission. On se reparle demain. Bye-bye, guys.
Salut.